Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David.
Et bienvenue sur Sud Radio pour les vraies voix de la présidentielle. Alors, vous connaissez les vraies voix avec notre bande habituelle de joyeux de riz. Allez, j'en cite quelques-uns. Françoise Degois, Jean Dorido, qui était là hier, par exemple. Céline Pina, Lydia Guirouz. Bref, ils sont venus, ils sont tous là. Alors, les vraies voix de la présidentielle, ce sont des vraies voix, mais qui ne sont pas d'habitude vraies voix, même s'ils sont parfois venus dans les vraies voix. Vous comprenez un peu le système. Alors, pourquoi ? On ne vous l'apprend pas, on est en période de campagne présidentielle, ça tout le monde était au courant manifestement. Et donc, une fois par semaine, dans les vraies voix, on aura trois vraies voix qui seront porte-parole des candidats. Et pour la première, en ce mardi 22 février, on va faire ça par ordre alphabétique. Nous avons Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse. Bonsoir Guillaume Carayon.
Bonsoir Philippe.
Bien dans le micro, même si on a la voix. Et puis en plus, c'est très géographique aujourd'hui, les vraies voix, puisque si je ne m'abuse, vous êtes originaire du Tarn.
Exactement.
De la ville de Lavaur. Donc là, c'est vraiment le sud-ouest qui est représenté. Toujours par ordre alphabétique, Antoine Guerre, soutien d'Éric Zemmour, porte-parole d'Éric Zemmour, et je crois que vous êtes de région parisienne, vous.
Pas du tout, moi je suis Dunkerquois.
Dunkerquois, alors là c'est le Grand Nord.
Les territoires sont là.
Mais ouais. vous êtes en région parisienne, je crois.
Je travaille en région parisienne, mais mon cœur est à Dunkerque tous les jours.
Alors écoutez, au Nord c'était les corons, la terre c'était le charbon, et vraiment les Hauts-de-France...
Le ciel c'était l'horizon.
Sont les hommes des mineurs de fond. J'en profite pour passer un message de bonne chance au Lille Olympique Sporting Club qui joue ce soir les Dogs sur la pelouse de Chelsea. C'était ma seule aparté footballistique de la soirée.
On les encourage énormément et en lillois, je ne peux que souscrire à vos encouragements, cher Philippe.
D'accord. Et donc, vous avez reconnu sa voix parce qu'il est déjà passé dans les vraies voix. Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot et également conseiller régional des Hauts-de-France. Alors... Les débats, c'est comme les vraies voix d'habitude, on débat dans le respect, la courtoisie, la bonne humeur, même si parfois, comme disait l'immense Walter Spanghero, les échanges sont virils mais corrects. Nos deux débats, à 17h30, on parlera du pouvoir d'achat et des propositions des candidats sur le pouvoir d'achat. Pourquoi le pouvoir d'achat ? Parce que c'est la première préoccupation des Français pour cette présidentielle, c'était la première pour Odoxa en novembre, c'est la première pour Opinionway en janvier. Deuxième sujet, c'est la troisième préoccupation des Français, la sécurité. Ce sera le débat de 18h30 à 18h50. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Vous êtes en forme. Je suis certain que vous n'aviez pas le trac avant de venir. Je me trompe ou pas ?
Oui, plutôt tranquille, je crois. Hein. On est tranquille, plutôt, oui.
Tranquille ?
Ça va bien.
Tranquille, bon bah écoutez, tranquille.
La force tranquille.
ça rappelle un candidat, il y a exactement 41 ans, je crois que personne n'était né ici ou presque. Hein.
Non,
81
non. Non. Non plus.
C'est bien, je vais avoir la carte vermeille du jour, merci beaucoup, les vraies voix. Est-ce que vous voulez le refilling IFOP fiducial pour Sud Radio de la présidentielle ? Eh bien c'est parti.
Sud Radio Parlons Vrai, présidentielle 2022.
Alors, ça bouge un peu dans le rolling IFOP fiducial pour Sud Radio. Emmanuel Macron, qui baissait depuis jeudi, reprend un peu de poil de la bête. Il regagne 0,5% à 25%. Juste derrière, Marine Le Pen perd 1,5%. Elle est à 16, à égalité avec Éric Zemmour. Et ensuite, Valérie Pécresse est à 14,5. Elle perd 1,5 point. À gauche, Yannick Jadot perd 1,5 point à 5. Fabien Roussel gagne 1,5 point à 4,5. Ne déduisez pas que l'émission porte malheur quand on y vient, puisque sur les trois, il y a deux candidats qui perdent un demi-point. Je voudrais vous faire réagir sur une chose. Depuis le rolling, le premier rolling, c'était le 10 janvier dernier, donc ça fait un mois et demi, on peut dire ça comme ça. Emmanuel Macron est systématiquement en tête largement et systématiquement au second tour. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Qui veut commencer ? Bon, allez, par ordre alphabétique, on va faire.
Moi, je crois que c'est la conséquence de sa stratégie qui a consisté à fracturer la société. Aujourd'hui, il y a un bloc de 25% des Français, à peu près un Français sur quatre, qui compte voter à nouveau pour Emmanuel Macron parce qu'il a divisé les Français. Il a opposé les Français les uns contre les autres. Et moi, je crois que c'est une stratégie qui est extrêmement dangereuse. Et aujourd'hui, nous, avec Valérie Pécresse, on est les seuls à porter un projet de rupture avec la politique de Macron et de redressement du pays avec cet argument qui est pour moi décisif, le fait qu'on est les seuls à pouvoir le battre. Donc tous ceux qui ont été déçus par la politique, Macron, tous ceux qui considèrent qu'Emmanuel Macron a aggravé les injustices dans notre pays, et je suis le premier à le dire, eh bien ils doivent se tourner vers le vote utile qui est Valérie Pécresse.
Je vous coupe, il est toujours gagnant au second tour, que ce soit contre Valérie
Pécresse, contre Marine Le Pen ou contre Éric Zemmour. Il y a quelques semaines, il y a des sondages qui ont montré que Valérie Pécresse était capable de le battre. On a été donné vainqueur à 52% des voix, on est les seuls en mesure de le battre. Tout le monde sait pertinemment que Marine Le Pen et Éric Zemmour ont aucune chance de le battre. Et je crois que ça, les Français l'ont compris. Et il y aura un vote utile qui va se faire dans les dernières semaines de la campagne.
Antoine Guerre, comment expliquer qu'il soit toujours en tête et largement, alors que c'est pas le président le plus populaire depuis le début de la Ve République? Et là, j'avoue que je n'étais pas né au début de la Ve République.
Je vais répondre à Guilhem Carion juste avant. Si seulement c'était vrai que Valérie Pécresse pouvait battre Emmanuel Macron, elle le battrait pourquoi? Parce qu'en réalité, Valérie Pécresse et Emmanuel Macron n'ont pas de différence de fond sur la politique qui serait menée. La vraie différence, la vraie alternative,
c'est Éric Zemmour. En fait, tu as été militant dans ce parti pendant 10 ans, donc soit pendant 10 ans, tu t'es trompé de couleur politique.
Et c'est bien pour ça que moi, je rejoins aujourd'hui Éric Zemmour, parce que je ne veux plus être de la droite qui trahit ses électeurs. Moi, j'ai la tranquillité aujourd'hui, avec Éric Zemmour, de savoir qu'on va gagner, et qu'une fois qu'on aura gagné, on fera ce qu'on a promis. Pour parler d'Emmanuel Macron,
qui est toujours en tête de 25 aujourd'hui,
je dirais que c'est le plus grand
au second tour.
C'est le plus grand mystificateur de la Ve République. Ses résultats sont mauvais sur tout. En matière de sécurité, de très mauvais résultats. En matière d'économie, de très mauvais résultats. Sur la scène internationale, il tente de faire croire aux Français qu'il gère quelque chose et il vient de se prendre une déculottée parce qu'il ne parvient pas à incarner la France puissance d'équilibre entre la Russie et les États-Unis. Eh bien, Emmanuel Macron est parvenu à mystifier tout le monde. Emmanuel Macron est parvenu à empêcher le début d'une campagne présidentielle qui parlerait de son bilan en se cachant derrière la situation sanitaire. Ensuite, en se cachant derrière la situation internationale, il n'est toujours pas candidat et il va retarder le plus possible le fait d'être candidat parce que sinon on va se mettre à parler objectivement de son bilan. Son bilan est extrêmement mauvais. Éric Zemmour est le seul qui pourra redresser la France après 5 années d'Emmanuel Macron.
Avant de donner la parole à Benjamin Lucas, certaines rumeurs disent que ce ne serait pas pour cette semaine la déclaration de candidature d'Emmanuel Macron, mais pour la semaine prochaine. Je l'ai appris quelques minutes avant d'entrer en studio. Comment vous expliquez ça, Benjamin Lucas ? Vous allez peut-être être d'accord d'ailleurs avec Antoine hier sur le fait que c'est une mystification Emmanuel Macron. Comment expliquez-vous qu'il soit largement en tête, toujours premier au premier tour et toujours gagnant au second ?
Je vais vous décevoir, Philippe. Moi, je ne commente plus les sondages. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas juste...
À 5%, effectivement.
Oui, mais qu'il soit bon. Vous savez, monsieur, arriver à 5%, ça vous arrivera aussi. C'est arrivé à plein de gens. C'est à la fin de la fois qu'on
compte les bouses,
comme disait le président Chirac. Non, mais moi, il y a quelque chose qui m'effraie pour notre démocratie. Tous les jours, on a un sondage. Tous les jours, on ne parle même plus des idées, du champ des idées. Qu'est-ce qu'on veut faire pour le climat, le plus grand défi auquel était confrontée l'humanité dans son histoire? Qu'est-ce qu'on veut faire contre les injustices, le poids des inégalités qui pèsent aujourd'hui durablement dans notre société? Comment on veut faire, comment on veut réparer notre démocratie? On parle plus de ça, on fait le commentaire du commentaire. Et vous avez des candidats qui viennent dire non pas mes idées sont les meilleures, mais je suis le mieux placé pour, dans un hypothétique second tour face à machin, gagner face à truc, etc. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas respectueux des électrices et des électeurs et de la démocratie. Et moi j'appelle les électrices et les électeurs, quel que soit ce que disent les sondages, à se préoccuper d'abord de ce qu'ils veulent pour le pays, de la vision du monde, de la France, de la société qu'ils veulent défendre. Mais vraiment, c'est insupportable, pardon, mais d'un mot quand même, c'est pas à 800 personnes, un panel de 800 personnes,
alors, nous,
de décider de 400,
1500,
mais 1500. Peu importe, ce n'est pas un panel de quelques centaines de personnes, si vous préférez, de décider de la façon dont on parle de cette campagne présidentielle. C'est aux Françaises et aux Français, c'est de ceux qu'on rencontre. Moi, ce que je constate, c'est qu'encore sur le terrain, beaucoup de Françaises et de Français ne savent pas pour qui ils veulent voter, ni même s'ils vont aller voter à l'élection présidentielle. Et notre responsabilité, comme porte-parole de candidat à l'élection présidentielle, c'est d'abord de les convaincre de cela et de parler des idées. Après, si vous voulez qu'on fasse le commentaire du match, si vous voulez qu'on fasse, mais laissez-moi terminer. On n'est pas encore chez Poutine, monsieur Dier. On peut encore s'exprimer librement.
Donc laissez-moi terminer. De la démocratie,
donc laissez-moi terminer. Oui, ça m'étonnerait. Mais donc, là, le sujet dans lequel on est, le moment dans lequel nous sommes pour notre démocratie, c'est d'abord de parler des idées, d'abord de parler des solutions pour un pays qui ne va pas bien. Sinon, on aura, comme au municipal et au régional, une abstention massive et on aura de la désespérance au bout. Et quel que soit celui ou celle qui sera élu, ça n'entraînera que de la désespérance, que de la tension dans le pays et de la violence supplémentaire.
Même si au municipal, avec deux tours à trois mois d'écart, c'était quand même pas la meilleure manière de les organiser, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus.
Tous
oui
d'accord.
Bien sûr, bien sûr. Aux élections régionales, il n'y avait qu'une semaine entre les deux tours. On a même eu un crash démocratique.
C'est vrai, mais on était en pleine période de pandémie. Mais là, on y est encore a priori. Vraies voix, 17h13. Dans quelques instants, on va faire les tours de table de l'actualité de nos vraies voix de la présidentielle. À 17h30, vous voulez parler pouvoir d'achat. Nos porte-paroles de candidats vont parler de leurs mesures pour le pouvoir d'achat. C'est votre première préoccupation. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Guillaume Carayon, Antoine Yars et Benjamin Lucas. C'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Les vraies voix Sud Radio.
Et avant de vous donner la parole, Guillaume Carayon, on va écouter un son. Ça fait le buzz sur Twitter. C'est l'agression sur un marché de Grenoble de Clément Chappet, un militant LR, donc un militant de votre parti, par un militant de la France Insoumise.
Oui, je voudrais vous parler de cette agression de mon ami Clément, qui est un militant jeune républicain de l'Isère, qui est candidat LR aux élections législatives, et qui a été agressé lâchement, sauvagement, par un militant de la France Insoumise il y a maintenant 2 jours. On a attendu longtemps une réaction de la part de Jean-Luc Mélenchon, de la part des cadres de la France Insoumise. Il n'y en a eu aucune. Donc un militant d'un parti politique se permet d'agresser sauvagement un autre et personne ne dit rien. Je considère que c'est hallucinant. C'est un militant antifasciste, enfin qui se prétend antifasciste, qui en réalité est un vrai fasciste. Je trouve ça insupportable qu'on évolue, qu'on soit dans une société où la violence règne, où la violence est de plus en plus forte, notamment sur les marchés à quelques mois d'une campagne, enfin du premier tour, à quelques semaines du premier tour élection présidentielle. C'est pas ma vision de la démocratie. Moi, ça rejoint un peu ce que j'ai vécu quand j'étais à la Sorbonne. J'étais étudiant à la Sorbonne. Je me suis engagé dans un syndicat étudiant qui s'appelle l'UNI, que Antoine connaît bien, et dans lequel on faisait face à des milices d'extrême gauche qui faisaient régner la loi de l'intolérance dans la faculté, qui interdisaient des conférences. Mohamed Sifaoui, qui n'est pas un islamophobe, devait animer un séminaire sur la prévention à la radicalisation islamiste. Il a été interdit de parole à la Sorbonne. Je me souviens, à Lille, François Hollande a été sa conférence dans une faculté a été chahutée, voire il a été expulsé de la faculté. Donc voilà, il y a des milices antifascistes qui sont en réalité des fascistes qui font régner une loi de l'intolérance insupportable dans nos universités, sur les marchés. Il faut stopper ça, impunité zéro. En tout cas, c'est le projet de Valérie Pécresse.
Benjamin Lucas, c'est vrai que c'est choquant, ces violences dans la campagne.
Bon, moi, sans mélanger ou faire d'amalgame avec ce qui se passe dans les universités et un certain nombre de militants, ce qui est sûr, c'est qu'évidemment, moi, je condamne toute forme de violence, d'où qu'elle vienne de la droite, de la gauche, peu importe. On doit pouvoir avoir un débat démocratique serein.
Comme ce soir.
Beaucoup de candidats mettent de la violence dans cette campagne présidentielle par les mots qu'ils professent. Ça ne doit pas entraîner, je le dis, quelle que soit la cause. Je peux terminer une phrase dans cette émission, ce serait très, très présent. Mais ce que je veux dire, c'est quelles que soient les causes que l'on défend, rien ne justifie qu'on s'en prenne physiquement à un militant politique, quelles que soient ses idées, même quand on peut les juger détestables, dangereuses. Là, en l'occurrence, je ne connais pas cette situation, mais moi, je crois qu'il y a trop de violence aujourd'hui dans le pays, il y a trop de violence aujourd'hui dans la vie politique de notre pays, et que c'est extrêmement inquiétant pour notre démocratie. Donc, évidemment, je condamne toutes les formes de violence, toujours par principe, avant même que les faits soient établis par la justice, qui doit évidemment intervenir dans ce genre de situation.
Alors, je vous donne la parole. Il y a eu des de plainte ou pas de la part de votre ami?
Il y a eu un dépôt de plainte. Clément a déposé plainte hier matin.
C'est pas classé sans suite, manifestement, comme ça fait le buzz sur Twitter, a priori.
Bon, il a déposé plainte hier, donc on n'a pas encore de suite, mais j'espère que ce militant sera condamné par la justice. Enfin, il y a des photos, il y a des vidéos.
Oui, alors ça, la vidéo fait le buzz. Hein.
La vidéo a été vue des centaines de milliers de fois, donc justice devra être faite.
Antoine Dierce.
Oui, alors moi, je pense que la violence, elle vient pas de partout, comme ce qui vient d'être dit.
C'est vrai qu'elle vient beaucoup de l'extrême droite, vous avez raison,
non, monsieur, justement, principalement. De l'extrême gauche. J'étais hier soir à Grenoble.
Il n'y a pas d'extrême gauche dans ce pays. Il y a une candidate de l'extrême gauche, elle est à 1% dans les sondages.
Hier soir. Je pense que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche.
Mais il ne condamne même pas un militant.
Je ne le soutiens pas, c'est pas mon candidat.
Je vous parle de ce que j'ai vécu hier soir. Hier soir,
précis sur les termes.
Il y avait une belle réunion publique locale à Grenoble, dans la banlieue de Grenoble, dans une jolie petite ville, où j'intervenais devant 300 soutiens d'Éric Zemmour. Et il y avait, devant la salle, 200 fascistes d'extrême gauche qui ont vociféré, hurlé, qui ont craché sur les militants qui entraient dans la salle, qui ont bousculé des militants qui venaient à la réunion publique. Il a fallu le déploiement de 100 gendarmes mobiles pour faire face à ces militants d'extrême gauche qui voulaient empêcher la tenue de la réunion
publique.
Les troubles à l'ordre, vous voyez,
c'est la campagne d'Éric Zemmour, c'est le trouble à l'ordre public dans tout le pays.
C'est exactement ça que je veux dénoncer. Il y a une alliance entre la gauche dite républicaine, écologiste, et leurs chiens d'extrême gauche qui viennent créer des troubles à l'ordre public. Et après, ça vous permet sur
même
les plateaux
pas du doigt
de
comme
dire
ça,
que c'est Éric Zemmour.
Comme ça.
Non, mais parce que non, mais nous, on est vraiment agacés. Parce qu'il y a chez vous.
Pas du doigt.
Je suis très tranquille. Oui, ça va bien se passer.
De façon très agressive. Je vous encourage à rester calme.
Je vous le dis, il y a dans vos propos une forme de tolérance vis-à-vis de l'extrême gauche.
Si je peux m'expliquer.
Et donc,
J'aimerais vous entendre dire que tous les candidats doivent pouvoir s'exprimer sans devoir faire face à chacun de leurs déplacements ou à chacune des réunions de leur soutien, à la présence de militants violents qui veulent empêcher la tenue des réunions. Est-ce que vous pouvez le dire ça ?
Je note, monsieur. Je peux dire évidemment que la campagne électorale démocratique doit se passer et que chaque candidat ou candidate déclarée, chaque candidat légitimement candidat doit pouvoir s'exprimer. C'est aux Françaises et aux Français qu'il appartient de juger. Je note, monsieur, que le pacifisme ou la... il est du côté des antiracistes, que la violence, on l'a vu dans votre meeting de Villepinte, elle est du côté de celles et ceux qui se sont levés pour les tabasser. Celles et ceux qui ont tabassé des militants antiracistes à Villepinte qui protestaient pacifiquement dans l'enceinte de votre meeting, ce sont vos militants, c'est votre service d'ordre.
La provocation, c'est SOS Racisme qui vient la faire dans notre meeting.
Mais monsieur, ensuite, attention, donc manifester, c'est une provocation. On voit bien la tentation poutinienne qui est la vôtre.
C'est manifester, c'est donc une provocation.
Manifester, c'est devant les salles, monsieur.
Non, est-ce que moi je viens chez vous mettre le bazar dans vos réunions?
Ça a été des méthodes de l'extrême droite qui sont souvent arrivées. Je veux juste vous dire, monsieur, que moi, je ne manifeste jamais dans l'enceinte d'un meeting d'un
élu. Vous avez bien raison, parce que ce serait de la provocation.
Ce n'est pas ma façon de faire, mais je note que vous appelez à la non-violence quand vous n'avez pas condamné. Vous n'avez pas condamné. Éric Zemmour n'a pas condamné le tabassage de militants antiracistes à Villepinte, alors que ces militants dénonçaient quoi ? Ils dénonçaient la violence. Il y a plus de violence, monsieur. Il y a plus de violence.
Les militants d'extrême gauche viennent provoquer.
Il y a plus de violence dans une phrase d'Éric Zemmour que dans 1000 coups de poing aujourd'hui dans ce pays. Non. Et c'est cela aujourd'hui qui crée de la tension et du chaos dans le pays. C'est vous qui mettez de la violence et de la tension dans le pays aujourd'hui.
La violence, elle est de votre côté.
On va passer au deuxième tour de table de l'actualité. C'est vous, Benjamin Lucas. Vous voulez parler d'Emmanuel Macron et du lobby des chasseurs. En Picardie, il y en a beaucoup d'ailleurs.
Oui, et alors moi je suis frappé parce qu'on va parler tout à l'heure de sécurité. Vous l'avez dit,
c'est à 18h30.
Vous l'avez dit, vous savez, je fais le teasing et tout.
C'est bien.
Je vais bientôt prendre votre place.
Vous n'aurez pas de
Message
avec à moins la direction.
Non, on parle beaucoup de sécurité. Et je vais avoir en face de moi, là, ils se donnent du tutoiement, etc. Ils sont très copains. On va avoir des gens qui vont être toujours plus sécuritaires l'un après l'autre, et puis à jouer à qui est le plus sécuritaire des deux, etc. Il y a un sujet de sécurité publique dans lequel on n'entend pas ni Emmanuel Macron, ni LR, ni les amis de M. Zemmour, ni le Front National de Mme Le Pen. C'est le sujet de la chasse. Il y a des dizaines de victimes chaque année d'accidents de chasse.
L'an dernier, il y a eu 7 morts en 2006.
7 morts.
C'est tellement déconnecté.
Ce sont des centaines de morts. Non, pour celles et ceux qui prennent une balle perdue, pour celles et ceux qui ont peur d'aller en forêt, pour celles et ceux qui meurent ou qui sont dans les familles des victimes d'accidents de chasse.
Et les 9 millions de personnes qui vivent sur le seuil de pauvreté, vous y pensez quand?
On va en parler, du pouvoir d'achat.
C'est symptomatique de la dérive de la gauche.
Si je peux terminer, je vais en parler.
Je comprends ce que vous
dites. Si, je vais en parler, monsieur, bien sûr. Sans aucun problème, j'en parlerai. D'ailleurs, nous avons des propositions dans le sens qui partagent vraiment les richesses, contrairement à vous. Mais donc, face à ce sujet de sécurité publique, si ça concernait autre chose que la chasse, nous aurions déjà des propositions de tous les candidats à l'élection présidentielle pour encadrer ou limiter cette pratique, pour dire c'est inadmissible, comme on l'a fait sur d'autres sujets, c'est inadmissible de tolérer qu'aujourd'hui il y ait des gens qui puissent mourir pour le loisir d'autres. Je note par ailleurs,
parce qu'il y a eu un drame le week-end dernier dans le Cantal.
Une statistique aussi qui devrait nous faire réfléchir, puisque la lutte contre les féminicides est, devrait être une grande cause qui nous rassemble tous, qu'un féminicide sur quatre est commis avec une arme issue de la chasse, une arme utilisé normalement pour la chasse. Bon, mais là, comme il y a un lobby puissant, qui est le lobby des chasseurs, M. Schrein, M. Coste, tout ce monde-là à table ouverte à l'Élysée et parmi les partis de la droite et de l'extrême droite, eh bien, on ne légifère pas, eh bien, on n'agit pas sur cette mesure. Voilà pourquoi, et je termine par ça, si vous le permettez, avec Yannick Jadot, nous proposons l'interdiction de la chasse, le week-end et les vacances scolaires, tout simplement pourquoi ? Pour pouvoir se promener dans la nature, en forêt, c'est une demande importante dans le monde rural, sans se retrouver avec le risque de voir son gamin touché par une balle perdue au détour d'un bosquet.
Guillaume Carayou, nous faire court, une minute et une minute pour Antoine Diers, sur la chasse.
La chasse, c'est une activité qui est pratiquée par 1 million de Français.
1 200 000.
Qui ont un titre de chasse. Moi, je considère qu'elle est encadrée légalement et il faut à tout prix éviter les drames, comme ceux que vous avez mentionnés. Mais c'est un droit, c'est une
vous
liberté
êtes donc laxiste,
qui a été...
monsieur.
Non, c'est une liberté qui a
je
été acquise par le peuple français. C'est une liberté qui a été acquise par le peuple français au moment de la Révolution française, en 1789. Et je crois qu'il y a...
Et celle de se promener dans la nature, elle a 2000 ans, cette liberté-là.
Oui, il y a 1 million de Français encore qui veulent exercer cette activité qui est extrêmement importante parce qu'elle permet de réguler les espèces, parce qu'elle permet aussi de limiter le nombre de sangliers.
Je ne propose pas son interdiction totale, monsieur. Je vous dis qu'on préserve le week-end et les vacances scolaires pour qu'on puisse profiter de la nature.
Il y a la vision très bobo, en fait, parisienne du 11e arrondissement. Et puis, il y a la vision un peu plus enracinée. Moi, je viens du Tarn. Dans le Tarn, on sait très bien qu'il faut réguler les espèces. Et qu'il y a des sangliers Il y a des sangliers qui peuvent causer des accidents de voiture et évidemment il faut réguler les espèces. Moi je vous dis juste
le 10e arrondissement de Bray-sur-Somme, je vais vous y inviter.
Non, mais pardon, mais Yannick Jadot, sa proposition, c'est quoi ? C'est d'interdire la chasse le week-end. Pardon, mais les chasseurs, ils bossent la semaine. Donc, vous interdisez la chasse, complètement.
Et les promeneurs aussi.
S'ils ne peuvent pas chasser le week-end, ils ne peuvent pas chasser la semaine non plus, donc ils ne chassent plus du tout. Donc, on interdit ce droit.
Antoine, hier sur la chasse.
Non, parce, juste parce qu'avec nous, il y a le partage du temps de travail, la réduction du temps de travail, et donc plus de congés payés.
Oui,
donc, ils pourront chasser la semaine. Vous voyez, encore une mesure sociale de bon sens qui permettra de concilier et de
rassembler. Antoine, hier, on déborde en une minute.
Allez, très rapidement.
Comme Guillaume Carion.
Je suis toujours mal à l'aise quand il y a utilisation d'un drame pour servir ses idées politiques.
C'est vous qui dites
mais
ça.
Mais vous pouvez pas rire. Vous pouvez pas rire. Il y a quelqu'un qui est mort.
Mais c'est
il y a quelqu'un qui est mort et vous riez de ça.
C'est vous qui dites que c'est scandaleux d'utiliser un drame. Vous faites ça en permanence. Le moindre incident avec la vidéo sur les réseaux sociaux,
c'est
pour se précipite pour le partager et aller l'utiliser pour ses théories racistes.
J'essayais d'être sérieux.
C'est grotesque, monsieur.
J'essayais d'être sérieux.
Non, vous n'essayez pas d'être sérieux.
Et là, il y a quand même une personne qui est décédée.
Bien sûr, et c'est moi aujourd'hui qui défends ses victimes et les familles de ses victimes.
En réalité, vous utilisez ce drame pour servir votre agenda idéologique anti-chasse. C'est abject. C'est abject.
C'est pragmatique, monsieur, de dire il y a des accidents, on encadre et on limite la pratique de la chasse.
Il y a des accidents de voiture. Il y a des accidents de voiture. On interdit les voitures. Il y a des accidents de ski. On interdit le ski. Enfin, vous êtes où
nous avons pris des mesures de sécurité, par exemple, pour la prévention routière.
On a pris des mesures de sécurité à la chasse.
De moins en moins.
Mais il y a beaucoup moins d'accidents de chasse qu'il y a quelques années. Il y a encore du travail à faire. Et les chasseurs en sont conscients.
Et donc vous le faites comment, le travail, alors ?
Mais attendez, vous n'avez pas...
Non, mais quelles sont vos solutions concrètes à vous pour empêcher aujourd'hui qu'il y ait des morts de la chasse ? Non, je le connais très bien. Quelles sont vos solutions à vous pour qu'il y ait moins de morts de la chasse ?
Les chasseurs ont instauré un recyclage de l'apprentissage des règles de sécurité. Tous les 10 ans, les chasseurs vont devoir repasser une forme de nouveau permis pour revoir les règles de sécurité. Donc les chasseurs sont des gens responsables.
Donc il faut rien faire.
Mais je viens de vous dire qu'on faisait des choses. Donc vous voyez, parce que moi je suis chasseur.
Ah non, vous dites on fait confiance aux chasseurs eux-mêmes.
Mais attendez, vous voyez, il y a des prises en compte. Il y a de la prise
donc,
en compte.
Donc par exemple, on fait confiance aux chauffards eux-mêmes.
Vous utilisez un drame, franchement, c'est ce que je vous dis.
Les vraies voix, 17h28, presque 29, on est en retard. Dans quelques instants, notre premier débat. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour augmenter le pouvoir d'achat ? C'est pour le moment Éric Zemmour en tête, 62,1, Valérie Pécresse, 6,5, Yannick Jadot, 0,7, et un autre candidat, 30,7%. Vous voulez réagir, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux.
Et on traîne...
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David.
Je veux complètement défiscaliser, décharger toutes les heures supplémentaires.
Je veux permettre la progression du pouvoir d'achat, la montée des salaires nets sans affecter la compétitivité des entreprises.
Donc vous travaillez plus, vous gagnez plus, sans aucune restriction.
On a un problème de pouvoir d'achat, on a un problème de pouvoir de vivre, donc on va augmenter de 125 euros le SMIC.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
Allez, on va parler des principales propositions en termes de pouvoir d'achat des candidats que vous représentez. Qui veut commencer ? Benjamin Lucas ?
Bon, si vous voulez, si vous le souhaitez. Seul contre tous, j'allais dire, c'est le nom d'une autre émission.
C'était l'émission que j'animais il y a quelques années. C'est là qu'on s'est connus, d'ailleurs.
Je vais commencer par ce qui est, puisque vous en parliez tout à l'heure, et vous avez raison, l'un des principaux sujets, pour moi, il y a deux grands sujets dans cette élection présidentielle qui sont majeurs. C'est d'abord, à égalité d'ailleurs, c'est le sujet climatique, évidemment. J'espère qu'on en reparlera dans votre émission dans un prochain débat, parce que les 5 ans que nous avons devant nous sont cruciaux pour déjouer les scénarios du pire. Et puis, c'est le sujet de la grande pauvreté et des inégalités dans ce pays, qui se sont creusées dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. La fameuse théorie du ruissellement qui devait, par l'enrichissement des plus riches, irriguer de quelques miettes les plus pauvres d'entre nous, s'est avérée être une farce grossière, mais ça nous le savions depuis des décennies, puisqu'en réalité ça fait 30, 40 ou 50 ans qu'on a un même modèle économique utilisé par la droite, plus ou moins libérale, trop souvent malheureusement aussi par la gauche, et qui nous a conduit à l'impasse et à une société fracturée dans laquelle nous sommes. Donc le grand enjeu, l'un des grands enjeux de cette élection présidentielle, c'est d'éradiquer la grande pauvreté. C'est la raison pour laquelle, avec Yannick Jadot et les écologistes, nous proposons d'instaurer un revenu citoyen qui sera à 50% du revenu médian, c'est-à-dire autour de 920 euros, qui permettra d'éradiquer la grande pauvreté. C'est un préalable pour, ne serait-ce que même, y compris d'un point de vue démocratique. Si on veut que notre société tienne debout, on ne peut pas accepter qu'il y ait, comme on l'a vu encore récemment, des jeunes qui fassent la queue pour quelques denrées alimentaires et qui aient à choisir à la fin du mois entre se loger et se soigner, entre se nourrir et se soigner. On ne peut plus accepter qu'il y ait un certain nombre de
de familles monoparentales dans lesquelles la mère, parce que c'est souvent une femme, se prive de manger les dernières semaines du mois pour nourrir ses gamins. Tout cela n'est plus possible et donc nous proposons de prendre à bras le corps ce problème de la grande pauvreté avec le revenu citoyen. Moi qui ai défendu avec Benoît Hamon dans la précédente élection présidentielle le revenu universel d'existence, je suis très fier que nous portions cette ambition forte et majeure avec Yannick Jadot, mais je pourrais aussi vous parler du partage du temps de travail, de l'augmentation du SMIC et des salaires, mais je crois que c'est par cela qu'il faut commencer d'abord éradiquer la grande pauvreté. Et si je peux terminer, c'est un devoir économique et social, c'est aussi un devoir moral aujourd'hui au regard de la situation du pays.
Antoine Dierks.
Alors, je regarde à nouveau le sondage en ligne. Éric Zemmour est vu comme celui qui est très largement en mesure d'améliorer le pouvoir d'achat des Français. 71% sur votre
Twitter. Ah non, on a
60%
là.
60% là.
Ah oui, ça a bougé. 60%.
Ça reste pas mal. Et je vais vous dire, en fait, les mesures d'Éric Zemmour sont beaucoup plus concrètes que ce que je viens d'entendre. Éric Zemmour fait le choix, non pas de promettre des chèques, des choses, mais
c'est pas un chèque, c'est un virement.
De rendre l'argent aux Français. La première des mesures, symbolique mais forte, supprimer la redevance audiovisuelle. 138 euros par an par foyer pour avoir bien souvent des chaînes de télé publique assez idéologiques.
C'est le retour de notre camarade Poutine. On va supprimer les services publics audiovisuels.
Est-ce que vous faites une fixation sur la Russie?
Ah ouais, chacun son tour. Antoine Dierks.
On comprend. Je termine.
Plus de télé publique.
Non, je termine. Ensuite, Éric Zemmour a fait une proposition assez forte, la création d'une prime zéro charge. Bien souvent, on oppose l'employeur et le salarié.
Soyez précis sur les termes. Ce que vous appelez des charges sont des cotisations.
Si vous voulez présenter le programme d'Éric Zemmour à ma
cotisation,
place,
chacun c'est ce qui permet de financer un certain nombre de choses pour la protection sociale des Françaises et des Français. Donc en fait, vous leur retirez là des protections sociales. Quand vous dites zéro charge, ça veut dire que vous supprimez de la protection sociale et la répartition des charges.
Chacun
soyez précis sur les termes,
vous
monsieur.
Vous voyez, là, vous mentez aux Français. Puisqu'il y aura toutes les cotisations sur leur salaire de base. On ne retire rien des cotisations actuelles. On propose que les employeurs puissent enfin verser des primes aux salariés méritants, et ça vous gêne.
Non,
et
ça vous allez creuser dans les caisses.
Chacun
mais
son
on
parent.
Ne creuse pas, bah puisque si, le salaire de base qu'il touche aujourd'hui, il est toujours soumis à cotisation. On n'enlève aucune cotisation de ce salaire de base. On permet à une entreprise qui réussit, grâce au travail de ses salariés, de verser sans charge. Ce qui vous embête en réalité, c'est qu'on ne joue pas à l'opposition entre l'employeur et le salarié. On sait bien que quand une... Mais attendez, là, c'est précisément ce que vous venez de dire. Hein, vous allez retirer des droits aux salariés, etc. Non, nous, on ne joue pas à l'opposition. On sait que les employeurs aimeraient récompenser leurs salariés méritants, mais qu'aujourd'hui, il y a trop de charges qui les empêchent de le faire. Ensuite, effectivement, avec Éric Zemmour, on remettra aussi en place les heures supplémentaires défiscalisées, supprimées par la gauche. Avec Éric Zemmour, on aura une droite qui ne trahit pas, on aura une droite du travail.
Guillaume Carayon.
L'enjeu du pouvoir d'achat, c'est évidemment l'enjeu essentiel de cette campagne présidentielle. Pourquoi ? Parce que les Français, ils en ont marre de serrer la ceinture. La fin du mois, c'est pas le 28. La fin du mois, c'est le 10. Et donc aujourd'hui, il faut avoir des propositions extrêmement concrètes, précises, pour augmenter le pouvoir d'achat des Français et pour valoriser le travail et le mérite. Il y a 9 millions d'hommes et de femmes dans notre pays qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a des classes moyennes qui ont été paupérisées par la mondialisation qui a profité à certains et qui n'a pas profité à d'autres depuis... une trentaine d'années. Alors nous, les propositions qu'on fait, elles sont claires. D'abord, l'augmentation des salaires de 10%, c'est ce qui permettra de redonner du pouvoir d'achat aux Français, typiquement pour quelqu'un qui gagne 2000 euros net par mois, et il gagnera à la fin du quinquennat de Valérie Pécresse 2200 euros net par mois.
Comment ?
La deuxième proposition, d'abord on baisse les cotisations vieillesse, et ensuite, on négociera avec les entreprises parce qu'on va baisser les impôts de production, on va baisser les charges sociales, et c'est ce qui nous permettra d'obtenir des entreprises.
Donc c'est les entreprises qui payent.
Bah oui, il faut évidemment que les entreprises fassent un pas vers les Français à partir du moment où on baisse leurs charges. Deuxième proposition, c'est l'augmentation des pensions de retraite. Moi, je supporte pas, moi j'ai 22 ans et je supporte pas de voir des gens qui ont bossé pendant toute leur vie et qui, à 65 ans aujourd'hui, gagnent 700-800 euros par mois.
Donc c'est il faut augmenter les pensions de retraite. C'est agricole. Hein.
Ouais, c'est le cas des retraités agricoles et c'est le cas de nombreux retraités dans notre pays qui n'en peuvent plus parce qu'ils n'arrivent plus à vivre. Et donc nous, on veut augmenter les pensions de retraite qui s'élèveront à minimum un SMIC. Et puis, il y a un troisième point, c'est la question de travailler plus pour gagner plus. Il faut en revenir à ce principe de droite qui consiste à valoriser le mérite, ceux qui bossent et qui se réveillent tous les matins, qui vont prendre leur bagnole pour aller bosser et qui ne supportent pas de gagner seulement 100-200 euros de plus que des gens qui profitent des revenus de l'assistanat. Donc on veut convertir les RTT en salaire défiscalisé, on veut aller au bout de la défiscalisation des heures supplémentaires, c'est ce qui permettra de valoriser le travail et le mérite des Français.
Vous voulez tous les deux interpeller Guillaume Carayon, je vais vous laisser l'interpeller, mais après je vais vous poser des questions précises sur le pouvoir d'achat. Antoine Dierks, vous voulez l'interpeller et ensuite Benjamin Duc.
Moi, ce n'est pas pour interpeller Guillaume Carayon, c'est pour mettre un sujet sur la table, c'est que le pouvoir pouvoir d'achat, c'est avant tout l'argent qu'on ne prendra plus aux Français en baissant la fiscalité. Pour baisser la fiscalité, il faut baisser les dépenses de l'État. Et nous, nous avons identifié avec Éric Zemmour une dépense immense, c'est le coût de l'immigration. 20 milliards. Je
ça
savais que ça
toujours.
Vous plairait.
Ah oui,
je
ça, ça vient toujours. C'est un réflexe.
C'est factuel.
Comment on appelle ça, le syndrome Gilles de la Tourette? Non, parce qu'il y a un côté un peu obsessionnel.
Vous voulez dire Pavlov, mais je vous expliquerai tout ça plus tard.
Avec plaisir.
20 milliards d'euros, c'est le coût de l'immigration. 10,7 milliards d'euros de prestations. Vous me laissez parler, ça va.
Je ne suis pas méprisant.
10, moi, je ne suis pas méprisant.
Mais non, mais le débat est pourri parce que tous les deux vous interpellez, c'est tout à l'heure.
Vous ne coupez pas la parole tout le temps.
Moi, je ne coupe la parole de personne.
Non, non, allez-y.
Je continue. Le coût de l'immigration, 20 milliards d'euros d'argent public, d'argent des Français qui sont donnés à des étrangers. 10,7 milliards d'euros de prestations sociales non contributives, des gens qui n'ont pas payé vos fameuses cotisations, qui reçoivent des prestations. Avec Éric Zemmour, on rend ces 10,7 milliards d'euros aux Français. 2 milliards d'euros, le coût des fameux mineurs isolés étrangers, qui ne sont bien souvent ni mineurs, ni isolés, mais juste des clandestins. Avec Éric Zemmour, on rend ces 2 milliards d'euros aux Français. 1 milliard d'euros, le coût de l'AME, la fameuse aide médicale d'État, on la rend aux Français.
Alors, court, parce qu'après, je vous posais des questions à tous.
Deux choses. D'abord, bon, non seulement vous n'avez pas de cœur, ça on le sait, quand on voit que vous voulez, y compris sur des mineurs
les Français,
étrangers isolés,
mais ils sont pas mineurs,
les jeter dans la misère. Vous avez suggéré qu'on ne s'interrompt plus. Donc
on est d'accord, on ne s'interrompt plus.
Bon, donc, mais en plus, vous n'avez pas de portefeuille parce que toutes les études démontrent ce qu'est l'apport de l'immigration, pas simplement pour notre vie démocratique, pas simplement pour ce qu'est la beauté de ce pays, mais aussi parce que vous avez des gens qui contribuent à la vie économique du pays et que demain vous voulez que ça s'arrête. Donc en plus, vous n'avez pas non plus de porte-monnaie sérieux. Mais moi, je voulais réagir sur la question du travailler plus pour gagner plus, parce que pour moi, c'est au cœur. Et ça, pour le coup, là, on est sur un débat intéressant. C'est pas une espèce de vieille lubie anti-immigration, là, une vieille recette. Là, on est sur finalement le cœur d'un débat. Et moi, je respecte votre position parce qu'elle est conforme à ce qu'est l'histoire de la droite. Et pour le coup, Madame Pécresse l'incarne fidèlement. C'est l'héritière de Nicolas Sarkozy. Il n'y a pas de doute là-dessus. C'est pas une bonne chose pour moi, mais enfin, j'allais dire, on sait pas moi qu'elle veut convaincre. Moi, je ne crois pas au travailler plus pour gagner plus. Je crois au travailler mieux, moins et tous. Je crois, et d'un mot si vous le permettez, que ce qui a permis de créer massivement de l'emploi dans ce pays, ça je ne le crois pas, je le sais, parce que l'INSEE nous le dit. L'INSEE, ce n'est pas un institut de recherche proche de la CGT ou des écologistes.
Je vois arriver les 35 heures.
C'est le partage du temps de travail.
Oh là
parce
là
que
là.
Nous avons aujourd'hui un vrai problème, qui vous n'en avez pas parlé, mais pour résoudre le problème du pouvoir d'achat, il y a un sujet qui est le chômage. Or, on ne combattra pas efficacement le chômage avec les recettes du passé, la course effrénée
35 heures,
à la croissance à tout prix. Il faudrait des décennies de croissance à deux chiffres pour atteindre le plein emploi. Et donc, il faut partager le travail pour travailler mieux, moins et tous. Et donc, nous proposons, puisque vous parliez des 35 heures, avec Yannick Jadot, une méthode un peu différente. Nous ne proposons pas quelque chose de vertical qui s'impose à toute l'économie, finalement, de façon assez peu souple. Nous proposons qu'il y ait une convention citoyenne sur cette question pour qu'on pense la réduction du temps de travail à l'échelle de la vie, de la semaine, de l'année. C'est aujourd'hui une réponse efficace, pragmatique, ne vous en déplaise, à la problématique que nous avons de chômage
moins,
de masse.
On ne sait pas gagner plus,
et à la problématique aussi que nous avons de sens que nous voulons retrouver dans la société pour aussi retrouver de la liberté, des loisirs, l'accès à la culture, des choses qui sont importantes aujourd'hui pour une vie démocratique.
Guilhem Carayon, court, parce qu'après je vous pose des questions à tous.
Mais Benjamin Lucas est très cohérent également sur sa vision. C'est un socialiste, en tout cas un social-démocrate,
un écologiste.
Mais je crois que votre vision est déjà au pouvoir avec Emmanuel Macron. On est les champions du monde en France des dépenses publiques, 60% des dépenses publiques par rapport au PIB. On est les champions de la fiscalité, les Français sont asphyxiés par les impôts, et pour autant, on a une qualité de service public qui ne cesse de se dégrader quand elles ne disparaissent pas, surtout dans les communes rurales. Donc nous, ce qu'on dit avec Valérie Pécresse, c'est qu'il faut dépenser moins, mais dépenser mieux. Mener la réforme des retraites, parce que l'espérance de vie augmente, quoi qu'on en dise, et donc il faudra travailler plus longtemps, jusqu'à 65 ans. Et c'est ça
donc
qui permettra...
Mourir plus tôt.
Et c'est ça qui permettra...
Donc mourir plus tôt, parce qu'aujourd'hui,
permettra...
quand on allonge l'âge de départ à la retraite,
on ne s'interrompt pas.
C'est ça qui permettra d'augmenter les pensions de retraite. On veut également réformer l'État, c'est-à-dire débureaucratiser, simplifier. Je crois que les Français en ont marre des paperasses administratives. Vous savez, à l'hôpital, il y a 35% des emplois qui sont administratifs. Les gens, ils veulent plus d'agents publics sur le terrain, moins dans les bureaux, moins de paperasses administratives, pardon.
Le
travail administratif à l'hôpital, vous allez faire par qui,
du coup, il faut se concentrer.
Par les soignants qui auront moins de temps pour soigner.
Mais
c'est ridicule,
moins de 35%.
Ça ne marche pas.
Mais les gens, ils veulent plus d'agents publics sur le terrain, ils veulent se concentrer sur les prérogatives essentielles de l'État, c'est-à-dire protéger les Français,
dans un hôpital,
la sécurité,
hein.
Je sais que ça vous
attendez,
je sais que vous décrivez la sécurité, mais ça
vous décrivez l'hôpital.
Non non monsieur, protéger, c'est pas moi qui ai supprimé la police de proximité,
s'il vous plaît,
c'est pas moi qui ai fermé des gendarmeries, c'est Nicolas Sarkozy.
S'il vous plaît, chacun son tour. Alors je vous posais une question à tous, il y a des gens, vous avez parlé d'augmenter les salaires, ça c'est les entreprises qui décident, c'est pas l'État qui décide des salaires en France. Il y a des gens dont il faut parler, c'est les fonctionnaires. En 22 ans, de janvier 1994 à juin 2016, le point d'indice a progressé de 19,4%. Il est gelé depuis 2010, alors que l'inflation a été de 39,15%, ce qui fait un différentiel de 20 points. Est-ce qu'il faut augmenter les salaires des fonctionnaires ? Antoine Diers.
Moi, dans la fonction publique, je vois ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. On a beaucoup de gens qui sont des fonctionnaires attachés à leur métier, qui ont le sens du service public, etc., qui sont plombés par un certain nombre d'autres qui n'ont pas ce même attachement. Et je crois qu'on doit pouvoir faciliter le fait de récompenser au mérite ceux qui travaillent dans la fonction publique. C'est un moyen de mieux rémunérer au mérite.
Donc on a, pardon, juste sur le dégel du point d'indice, c'est ni oui ni non.
Non, je pense que la question, elle n'est pas là. Elle est sur reconnaître le mérite.
Donc c'est non.
En fait, ceux qui méritent, et c'est un mot qui vous irrite, vous voyez. Vous avez entendu mérite, et là, quelle horreur. On veut revenir à la récompense au mérite pour ceux qui bossent.
Guillaume Carayon, le point d'indice qui est quand même gelé depuis la bagatelle de 12 ans, ça fait quand même un petit paquet d'années maintenant.
Je réponds juste à ce que vient de dire Antoine Diers. Moi, je comprends son point, mais je n'y souscris pas parce qu'on ne peut pas opposer les fonctionnaires. Et on ne peut pas dire il y a des bons fonctionnaires, il y a des mauvais fonctionnaires. On ne peut pas donner des bons points à certains et des mauvais points à d'autres. Moi, je crois que c'est tous des serviteurs de l'État.
On ne reconnaît plus le mérite, on a un problème.
Et je crois que la mauvaise organisation des services publics, le manque d'efficacité dans le service public, cause aujourd'hui le fait qu'on a des dépenses de l'État qui sont extrêmement importantes pour une qualité de service public qui n'est pas à la hauteur. Il faudra réformer l'État avec plus d'efficacité, mais ce n'est pas en opposant les fonctionnaires les uns aux autres en disant « Ah, il y a des mauvais fonctionnaires qui ne font pas bien le boulot. »
Mais non, mais la question du mérite, elle est essentielle.
Il nous reste même pas 3 minutes. Benjamin Lucas, sur le point d'indice de la fonction publique. Parce que les fonctionnaires font partie des gens qui travaillent en France.
Bien sûr, il faut le dégeler, il faut augmenter le salaire des fonctionnaires. Je vais vous dire deux choses. La République traite très très mal ses serviteurs. Très très mal. Les enseignants, les policiers, les soignants, toutes celles et ceux qui concourent au service public au sens large du terme,
trois catégories dont Éric Zemmour propose d'augmenter le salaire.
Laissez-moi terminer. Sont maltraités aujourd'hui financièrement. Ils sont aussi maltraités dans leurs conditions de travail. On a, je peux prendre par exemple dans l'éducation nationale, on n'en parle pas assez, beaucoup de burn-out, beaucoup de dépression. C'est vrai chez les soignants, c'est vrai chez les policiers. Le nombre de suicides dans la police, on en parlera tout à l'heure peut-être à travers les questions de sécurité, est affolant. Et donc on a une maltraitance de l'État vis-à-vis de ses services. Donc moi je crois que d'abord il faut une reconnaissance financière et donc dégeler le point d'indice, c'est un scandale qu'il ait été gelé aussi longtemps. Et puis il faut, pardon, mais il faut arrêter avec le fonctionnaire bashing, donc moi je vais le dire très clairement, mais vive les fonctionnaires, vive
le service public,
vive la République, vous
voulez pas,
je termine, vous opposez tout le temps les gens les uns aux autres, vous fracturez, et donc là vous nous expliquez, donc il y a les bons et les mauvais français, il y a les français et les non-français, maintenant il y aurait les bons et les mauvais fonctionnaires,
la seule différence que je fais entre les français et les étrangers.
Vous êtes dans une obsession de la division pour susciter des tensions. Moi, je vous dis, vive les fonctionnaires, vive les services publics et vive la République.
Il nous reste une minute et je voudrais qu'on parle. Alors, vous allez avoir 20 secondes chacun, 30 secondes TTC, les retraites. Parce que vous aviez dit, je crois que c'est vous, Guillaume Carayon, il y a des gens qui vivent avec 700 euros de retraite par mois. Je pense aux retraités agricoles. On fait un tour très rapide. Est-ce qu'il faut augmenter les retraites ?
Bien sûr, c'est ce que je viens de dire. On veut augmenter les pensions de retraite qui devront s'élever à minimum un SMIC. C'est une question de dignité.
C'est-à-dire 1200 euros net.
C'est une question de dignité pour ceux qui ont bossé toute leur vie et qui méritent d'être récompensés. Parce qu'on ne vit pas aujourd'hui dans notre pays. La vie, elle coûte de plus en plus cher. On ne vit pas avec 700 euros par mois.
C'est bien, en 20 secondes. C'est parfait. En 20 secondes et en 20 secondes.
Alors, Éric Zemmour fait une proposition très forte sur les pensions de reversion.
Ça, c'est pour les personnes veuves et veuves.
Mais exactement. C'est la retraite de leur mari, bien souvent, pour des femmes qui ont une retraite extrêmement faible.
Il y a des retraités qui ont encore leur femme.
Non, mais pas.
On est d'accord avec ça, sur la hausse.
Est-ce que vous êtes pour l'augmentation des retraites ?
Non, on n'a plus le temps.
Bien sûr. Mais ensuite, ce que je vous dis, c'est qu'il y a un drame, c'est des veuves
qui se retrouvent avec 54% de la pension de retraite de leur mari. C'est pas possible.
D'un
avec
mot,
Éric Zemmour, on remonte à 75%.
D'un mot, quand je parlais de l'éradication de la grande pauvreté, la grande pauvreté concerne aussi évidemment beaucoup les retraités, c'est-à-dire les jeunes et les plus anciens sont les premières victimes de la précarité et de la pauvreté. Donc évidemment, et le revenu citoyen dont je parlais tout à l'heure proposé par Yannick Jadot concernera également les retraités, parce qu'il est inadmissible qu'une société laisse vivre dans la misère, c'est de ceux qui ont consacré leur vie à travailler et à construire le pays dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Les vraies voix, 17h48, verdict sur Twitter. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour augmenter le pouvoir d'achat des Français? Vous allez être content. Éric Zemmour, 59,7. Valérie Pécresse, ça a baissé, 5,7. Yannick Jadot, 0,7. Et un autre candidat ou une autre candidat,
33,8.
Est-ce que ça vous dirait un petit moment de décompression avec la chronique présidentielle humoristique de Philippe Rossi?
Avec plaisir.
Et bien c'est tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David.
Retour des vraies voix avec Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, Antoine Guierre, porte-parole d'Éric Zemmour et Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot. C'est l'heure de la chronique présidentielle de Philippe Rossi.
Sud Radio, parlons vrai, présidentielle 2022.
Et mon cher Philippe Rossi, faute de parrainage, Marine Le Pen suspend sa campagne de terrain.
Oui, c'est un vrai chemin de croix pour le RN. Il manque une cinquantaine de parrainages à Marine Le Pen, hein, qui a décidé donc de ne se consacrer qu'à ça, appeler les maires et tenter de les convaincre.
Jeanne, au secours !
Voilà, au secours. Objectif, avoir les 500 signatures. La candidate RN a reporté sa conférence de presse sur l'éducation. Elle était prévue demain. Son déplacement dans la Somme n'aura pas lieu le 26 février, mais à une date ultérieure. Et encore, si la situation s'arrange. Alors c'est vrai qu'au nom de la démocratie, de plus en plus de maires et d'élus donnent volontiers leur parrainage. Même Sandrine Rousseau a passé ce message. Elle appelle les élus à aider les candidats en difficulté. Aider oui, mais attention, pas tout le monde. Hein. À deux exceptions près, ces exceptions se nomment Marine Le Pen et Éric Zemmour. On écoute Sandrine Rousseau.
Moi, je suis pour aider les personnes qui sont dans un cadre républicain. Je sors Éric Zemmour du cadre républicain et Marine Le Pen de la même manière.
Donc, tant pis pour eux s'ils n'ont pas leur parrainage.
Ah bah oui.
Voilà, tant pis pour eux, tant pis pour vous, Antoine Guierre, si Éric Zemmour n'a pas ses parrainages. Hein. Sandrine Rousseau ne veut pas que les maires aident Éric Zemmour, par exemple. Qu'est-ce que vous lui répondez à Sandrine Rousseau?
Ben voyons, comme on dit.
Ah oui, ben voyons, c'est vrai que c'est l'expression d'Éric Zemmour.
Et
c'est vrai.
Je salue la belle démocratie de la gauche.
Bon, très bien.
Emmanuel Macron devrait officialiser sa candidature autour du
3 mars.
Je rappelle que c'est dans la semaine prochaine.
Exactement. Autour du 3, ça peut être le 2, ça peut être le 4. Autour du 3, selon un locataire anonyme de l'Élysée, c'est très précis. Comment le chef de l'État va se déclarer? Ce qui est sûr, c'est que ce ne sera pas comme ça. Non, il ne l'annoncera pas aux 20h. Il officialisera sa candidature lors d'un déplacement en région. Mais attention, pas question de faire comme Jacques Chirac en 2002, non. Souvenez-vous, hein, depuis Avignon, Chirac avait préparé une petite séquence avec la maire de la ville.
Je ne peux pas faire un pas hors de chez moi ou de ma mairie sans qu'on me pose la question. Le président va-t-il déclarer sa candidature?
Marie-Josée Rouargue, je vous l'ai dit, vous m'avez posé une question directe et franche. Eh bien, j'y répondrai dans le même esprit. Oui, je suis candidat.
Et voilà, très très bon jeu d'acteur, hein, vous avez remarqué.
C'était pas du tout préparé.
C'était très bien joué, très très bien joué. Alors Emmanuel Macron ne fera pas ça non plus, vous l'avez compris. Je pense quand même que ce sera un petit peu plus spontané. Quoique, viendra ensuite, une fois qu'il aura déclaré sa candidature, une campagne éclair avec très peu de grands meetings. Vous n'entendrez par exemple pas ça.
Parce que c'est notre projet.
Non, il n'y aura pas ça. Pas beaucoup de meetings. Le chef de l'État mise sur un maximum de déplacements sur le terrain. Voilà, donc la semaine prochaine, officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron. Tiens, tous les trois, est-ce que vous avez hâte que le chef de l'État se déclare candidat, Benjamin Lucas, pour essayer de débattre un peu avec lui?
Il était candidat avant même d'entrer à l'Élysée,
oui,
dès le soir de son élection, il y a 5 ans. Donc pour moi, il est candidat permanent depuis 5 ans.
Ouais.
Ça ne changera pas grand-chose.
Il y avait le coup d'État permanent, c'était un livre d'enfance de Mitterrand. Là, il y a le candidat permanent.
Le candidat permanent. Tiens, Guillaume Carayon.
Bon, qui descend.
Vous avez hâte ou pas?
Qui descend dans l'arène pour débattre sur son bilan qui est lamentable.
Ouais.
Il a un bilan qui est lamentable, il a échoué alors qu'il avait énormément promis et je crois que les gens vont le sanctionner dans quelques semaines maintenant.
Antoine Diers.
Pour débattre mais surtout pour le battre avec Éric Zemmour.
Ouais. Il a peur d'Éric Zemmour, vous pensez, Emmanuel Macron?
Je pense.
Bon. Il parlait des meetings de Valérie Pécresse, on dirait une punchline d'un meeting.
Comment?
Pardon. Non, rien.
Ah, il est taquin ce soir, Benjamin Lucas. Allez, on termine avec un petit point.
C'est pas très drôle.
On va faire un petit point parrainage.
C'est pour ça que j'ai remonté en cours de route.
Attention.
Marche arrière.
Petit point parrainage. Alors attention, il y a beaucoup de noms et beaucoup de chiffres. Hein. Yannick Jadot l'a appris, il a obtenu ses 500 parrainages. Il en a exactement 566.
C'est une très bonne nouvelle.
Voilà, bonne nouvelle. Pécresse, 2143. Hidalgo, 1177. Fabien Roussel a 582 parrainages. À la traîne, Jean-Luc Mélenchon avec 442 signatures de maires et d'élus. Nicolas Dupont-Aignan, 422 signatures de maires et d'élus. Très, très à la traîne. Éric Zemmour, tiens, avec 350 parrainages. Antoine Dierz, vous qui travaillez au quotidien sur ces parrainages, il les aura, vous pensez, les 500 ou pas?
Bah, il va falloir. Ce serait inimaginable qu'Éric Zemmour soit pas candidat. Mais le système marche sur la tête.
Ouais, mais je veux dire, vous êtes optimiste, vous vous battez.
On les aura, c'est pas possible qu'on les ait pas.
Marine Le Pen, 393 parrainages. Elle aussi, elle se bat, elle appelle les maires, elle a suspendu sa campagne. Christiane Taubira, 104 parrainages. Et Florian Philippot, un petit parrainage. J'aimerais savoir quel est le maire qui l'a parrainé. Mais du coup, il décide d'abandonner Florian Philippot. Voilà, il stoppe sa campagne présidentielle.
Il y a plein de gens qui ont des parrainages qui ne sont même pas candidats. Il y a un humoriste d'une radio concurrente qui a un parrainage.
Ah oui,
j'ai vu ça.
Vous n'avez pas de parrainage, vous, Philippe David?
Ben, j'en ai pas demandé. Vous n'avez pas, vous non plus.
Bah non, je suis très étonné. Je suis très étonné.
On va se mobiliser.
Je suis désolé, j'ai déjà parrainé Yannick Jadot.
Je suis confus. Oh ben, j'aurais eu mon parrainage. C'est trop tard. Vous ne pouvez pas faire marche arrière une fois de plus.
S'il reste des parrainages, autant les utiliser de manière démocratique.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, Eric, vous avez raison.
C'est sûr, surtout que je ne suis pas preneur, vous non plus, Philippe Rossi.
Non, pas pour 2022.
Non. Ben, ça viendra peut-être pour 2027.
Si je peux dire un mot sur les parrainages.
Très court.
Moi, je crois qu'il serait bon pour la démocratie que toutes celles et ceux qui représentent quelque chose de significatif concourent à l'élection présidentielle. Ça éviterait qu'on jette le trouble sur cette élection. En revanche, je crois qu'une fois qu'ils les auront, ça dira quelque chose. Il faudra le mettre dans le débat public. Je ne vois pas comment on peut présider la République et ne pas être en capacité de convaincre des maires, des élus locaux. C'est les ceux qui font vivre nos territoires au quotidien.
Qui tiennent les choses. Et de faire vivre.
Voilà. Donc je crois que c'est important pour la République, pour éviter d'avoir une déconnexion comme on l'a eu avec le président de la République Emmanuel Macron pendant 5 ans, qu'on parte pour le prochain quinquennat des territoires, des besoins aujourd'hui de la population et de celles et ceux qui font vivre les services publics au quotidien, notamment les maires.
Et on est à J-10 parce que c'est le 4 mars qu'on comptera
la date limite de dépôt.
La date limite de dépôt. Ouais. C'est pour ça que la date du 3 mars pour l'annonce de candidature d'Emmanuel Macron me paraît plausible. Enfin,
moi je comprends qu'un maire n'ait pas envie de parrainer un candidat condamné pour injure raciale, par exemple. Ça me paraît être difficile de faire le mouvement sur son papier.
Depuis tout à l'heure, vous parlez de Poutine, vous parlez de ça, etc. Vous cherchez à diaboliser Éric Zemmour. Mais ça marche pas.
Vous êtes à 5%, on est à 16%. Ça ne marche pas, votre truc.
Les vraies voix, 17h58 à 18h30, d'autres grands débats. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Vous pouvez voter sur Twitter, on se retrouve tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David.
Retour des vraies voix de la présidentielle. Nouvelle émission une fois par semaine jusqu'à la présidentielle, c'est-à-dire jusqu'au 24 avril. Ce sera la date du second tour. Ce soir avec nous, Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, Antoine Dierz, porte-parole d'Éric Zemmour et Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot. À 18h30, notre grand débat. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Ça va les vraies voix?
Ça va bien.
Prêt pour un nouveau tour de table de l'actualité?
Avec plaisir.
Eh bien c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et c'est votre tour de table, Antoine Dierz, 22 février. C'est aujourd'hui, ça ne s'invente pas, c'est la journée européenne des victimes.
Eh oui, moi je suis pas très branché habituellement, journée 2, etc. Mais je suis tombé sur cette actualité, journée européenne des victimes, et je crois que dans nos sociétés, on oublie les victimes. Les victimes notamment des agressions du quotidien, les victimes de terrorisme. Moi, je suis abasourdi par notre justice, qui ne sanctionne plus les délinquants et qui ne prend absolument pas en compte la peine, la douleur, les dommages subis par les victimes. Et donc, je le dis, avec Éric Zemmour, on remettra une justice en ordre, une justice qui sera ferme contre les délinquants, mais qui prendra en compte la douleur des victimes. Parce que nos juges aujourd'hui nous disent « Non, mais la douleur des victimes, ça ne nous regarde pas, nous ne jugeons que les faits, nous jugeons la personnalité du délinquant. » Mais la justice doit être là pour les victimes. C'était le message que j'avais envie de passer aujourd'hui.
Guillaume Carayon, journée européenne des victimes.
Bien sûr, il faut penser aux victimes de l'insécurité. Il y a une violence gratuite toutes les 44 secondes dans notre pays, victimes de la politique catastrophique sur l'économie menée par Emmanuel Macron. On a un pouvoir d'achat qui a diminué, contrairement à ce que nous disent le président de la République et son ministre de l'économie, qui nous parle d'un bilan économique exceptionnel. Mais les pauvres, ils n'ont jamais été aussi nombreux. Les gens, ils ne sont pas récompensés à hauteur de leur travail. Victime du déclassement éducatif, on a une éducation nationale qui est en faillite totale. Victime de la désindustrialisation, on a une industrie qui s'est effondrée. On l'a encore vu avec le déficit commercial qui est sorti il y a quelques jours. 84 milliards de déficit commercial. Ça prouve à quel point notre économie elle est plus compétitive et à quel point nos classes moyennes, nos classes populaires sont en train de se précariser. Donc il faut soutenir les victimes. Et je crois que le rôle des politiques, le rôle du président de la République, j'espère de la prochaine présidente de la République, c'est d'encourager les initiatives, d'encourager ceux qui portent des projets, mais aussi de protéger les plus vulnérables, ceux qui ont un genou à terre et qui ont besoin d'être relevés par l'État.
Journée européenne des victimes, Benjamin Lucas.
Sûr, il faut protéger les victimes, entendre leurs souffrances, leur apporter réparation. Il y a une chose dans ce que vous dites, une fois que j'ai dit cela, qui me gêne, c'est que je vois que derrière un discours louable sur le soutien aux victimes, qui ne fait pas débat entre nous, il y a une volonté de remettre en cause la justice et l'état de droit en réalité. Il y a une volonté, comme c'est souvent le cas, c'était le cas avec Berlusconi, c'était le cas avec Trump. C'est une rhétorique habituelle de votre camp politique
que
de vouloir affaiblir
la justice, ne protège plus nos victimes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que votre idéologie vous empêche de voir ?
Monsieur, la justice aujourd'hui, elle a besoin de moyens. Elle a besoin
elle
de
a
soutien
besoin
pour pouvoir
de sanctionner
faire son
les
travail.
Délinquants et de protéger les victimes.
Je vais vous dire, il y a une chose qui est, que vous n'avez pas évoquée, mais qui pour moi est centrale dans justement, quelle est aujourd'hui souvent la première souffrance, ou en tout cas une souffrance importante pour les victimes, c'est les délais dans lesquels
entièrement
se tiennent
d'accord.
Les procès, qui sont autant de délais. Voilà, je n'ai pas dit qu'on n'était pas.
Un militant d'extrême gauche m'a cassé la figure années, j'ai mis 6 ans
et donc,
à
nous
voir
voulons,
mon procès se tenir.
Et donc, nous voulons rétablir des moyens pour la justice. Il y a aussi, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la fonction publique, il y a aussi beaucoup de malaise aujourd'hui dans la justice. Tous les personnels de justice le disent, ils sont soumis à une pression qui est inhumaine aujourd'hui et à une grande souffrance au travail. Et donc, il n'y a pas de démocratie sans justice et il n'y a pas de démocratie qui tienne debout sans une justice qui a les moyens
d'accord.
de rendre la justice.
Réformons la justice.
Les Vraies Voix, 18h12. Dans quelques instants, ça va être notre interview, comme tous les jours dans Les Vraies Voix. Même si ce sont les Vraies Voix de la présidentielle, on maintient le cours de l'émission. On va parler des annonces de Vladimir Poutine sur l'Ukraine hier soir. On va en parler avec Cyril Bray, prof à Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Notre Europe Jacques Delors, auteur du livre « Union européenne-Russie, les sanctions et après ?», qui a fait un long dossier sur la Russie dans l'éléphant, la revue de culture générale. On se retrouve tout de suite avec Les Vraies Voix sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David.
C'est Vladimir Poutine qui annonce reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-russes d'Ukraine et signe dans la foulée des accords d'amitié et d'entraide avec ces territoires. Je cite, « Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps, immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire du Donetsk et de la République populaire de Lugansk. » Nous sommes en compagnie de Cyril Bray, professeur à Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Notre Europe Jacques Delors, auteur du livre « Union européenne-Russie, les sanctions et après » et d'un long dossier sur la Russie dans l'éléphant, la revue de culture générale de ce mois-ci. Cyril Bray, bonsoir.
Bonsoir.
Tout d'abord, que signifient ces annonces de Vladimir Poutine ?
Eh ben, ça veut dire qu'il vient de franchir le Rubicon, il est sorti du placard. Jusqu'ici, on croyait et il entretenait la fiction qu'il n'y avait pas de soldats russes en Ukraine, que c'était simplement une guerre civile entre des Ukrainiens pro-russes et des Ukrainiens pro-ukrainiens. Là, maintenant, il reconnaît des territoires, il leur reconnaît l'indépendance et il envoie immédiatement des troupes russes pour les défendre contre une hypothétique agression de la part du gouvernement de Kiev. Donc aujourd'hui, il y a officiellement des militaires russes en opération sur le sol ukrainien en dehors de la Crimée.
Vous voulez poser une question, Guillaume Carayon ?
Non, la position de Valérie Pécresse, elle est très claire sur le sujet. Nous, on considère qu'il faut faire preuve d'une fermeté d'acier avec Vladimir Poutine. Je crois qu'il croit qu'à la force, Emmanuel Macron a été humilié. Il est allé en Russie pour négocier avec lui. Finalement, il ne s'est absolument rien passé. On nous a parlé de désescalade. Les tensions n'ont jamais été aussi, aussi importante, il faut d'abord vraiment permettre cette désescalade et ensuite renégocier les accords de sécurité en Europe. Et je crois qu'il faut évidemment pas transiger sur le fait que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. C'est ce que demande la Russie. C'est la condition sine qua non pour permettre la désescalade des tensions. Et c'est évidemment vital pour l'avenir de la sécurité en Europe.
Cyril Bray.
Il faut la Russie comprend le rapport de force. Et le rapport de force ne se limite pas à la militaire. Donc l'Union européenne doit absolument prendre aujourd'hui un train de sanctions nouveau, beaucoup plus fort, beaucoup plus énergique. C'est ce qu'elle est en train d'annoncer. Car si elle n'en prenait pas, qu'est-ce qui se passerait? On dirait tout simplement que l'Union européenne acquiesce au coup de force mené par la Russie. Et donc... il faut aujourd'hui que l'Union européenne parvienne à juguler cette avancée, parce que ça n'est qu'un premier acte. À partir de Lugansk, à partir de Donetsk, où vont s'arrêter les troupes russes? Là, jusqu'ici, elles sont entrées sur le territoire ukrainien sans tirer un coup de feu. Demain, si elles veulent, par exemple, établir une continuité territoriale entre l'Est, Lugansk et Donetsk, et le Sud, la Crimée, il va falloir que les armes à la main, elles aillent affronter les troupes ukrainiennes, et donc... ça veut dire une guerre de très haute intensité, avec des dizaines, voire des centaines de morts sur le territoire de l'Europe. Il est indispensable de retrouver l'architecture de sécurité collective en Europe, qui est aujourd'hui en lambeaux.
Alors, je dis, ça tombe à l'instant, il y a quelques minutes, selon l'AFP, en Ukraine, l'OTAN s'attend à une attaque de grande envergure de la Russie. C'est Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui l'affirme. Benjamin Lucas.
Oui, moi je veux d'abord avoir, comme Yannick Jadot, une pensée de solidarité pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. L'Ukraine est une nation souveraine qui a le droit à la sécurité, à la paix et à choisir en toute indépendance son avenir. Comment elle entend le construire et avec qui? Et donc il faut une condamnation ferme, et moi je suis toujours choqué dans le débat politique français de la complaisance, de la soumission, voire de l'admiration qu'ont beaucoup à l'égard du dictateur Vladimir Poutine. Et j'emploie ce terme dictateur, je crois qu'il est important qu'on le reconnaisse, parce qu'on a toujours une espèce d'euphémisation avec Poutine, ou d'admiration un peu malsaine, où on explique que c'est pas vraiment sa faute, c'est un peu les Ukrainiens, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Bon, il y a quand même une agression aujourd'hui russe inacceptable. Et ensuite, monsieur l'évoquait, il y a la question du rapport de force. Pour qu'il y ait du rapport de force, il faut effectivement de la force. Et je crois que là, tout cela nous démontre, on n'a pas le temps de faire un débat de deux heures là-dessus, mais démontre l'importance de l'Europe, de l'Union européenne. Voilà pourquoi il faut construire et renforcer l'Union européenne si nous voulons être forts dans un monde dangereux face à la tentation impérialiste, même pas la tentation, face aux agressions impérialistes de Vladimir Poutine. Il faut une Union européenne forte, collective, qui parle d'une voix unie et qui impose ses décisions et qui fasse respecter ses décisions. Si nous allons vers les aventures présidentielles qu'on nous propose avec un rétrécissement, avec un abandon de l'idéal européen, avec des velléités nationalistes, alors nous serons écrasés sous le poids de ces grands empires.
Cyril Bray.
Oui, il est indispensable que la France ait une politique russe qui soit marquée par la fermeté. Mais la France, quelle que soit l'orientation politique de ses dirigeants, a toujours eu, vis-à-vis de la Russie, un statut tout à fait particulier. D'abord parce que la France est la seule grande puissance militaire de l'Union européenne maintenant que le Royaume-Uni nous a quittés. Et c'est la seule chose que respecte la Russie. Deuxièmement, la Russie a une relation particulière, la France a une relation particulière avec la Russie parce qu'elle ne dépend pas de son gaz, en tout cas pas autant que les autres économies européennes. Son parc nucléaire lui donne une indépendance, une liberté de mouvement à l'égard de la Russie que n'a par exemple pas l'Allemagne. Et puis, troisième facteur, la France a à l'égard de l'OTAN une fidélité certaine, mais une fidélité critique, qui la place dans une position tout à fait particulière pour négocier les accords de sécurité collective aujourd'hui en Europe. Les tentatives du président Macron à Moscou n'ont pas permis d'enrayer la spirale dans laquelle la présidence Poutine s'est enrayée, mais c'était une démarche indispensable car seule la France, seul le président français, quel qu'il soit, pouvait engager cette démarche, être reçu à Moscou et être entendu avec la crédibilité militaire que notre pays a à Moscou.
Court. Oui, très court. Vous avez soulevé la question du gaz russe. Et effectivement, la vraie question pour l'Europe aujourd'hui, l'une des grandes questions, c'est de sortir de cette dépendance-là. Et ça prouve, encore une fois, la nécessité de la transition écologique et d'une transition écologique ambitieuse. Donc on voit bien que cette question-là, la question de la crise ukrainienne et les questions qu'elle pose, est au cœur de la campagne présidentielle. Et plutôt que des débats périphériques sur les sondages, les prénoms des uns, les religions des autres, voilà ce dont, dont on parle, c'est-à-dire la transition écologique aujourd'hui, y compris pour garantir notre indépendance.
Sur l'Ukraine.
Et l'indépendance énergétique, c'est le nucléaire en France. Et vous
On produit beaucoup d'uranium. Donc, on en trouve beaucoup en France.
Ben on en trouve, rassurez-vous. Ouais. Il y en a toujours. Et c'est beaucoup plus facile de trouver de l'uranium aujourd'hui que notre dépendance au gaz russe. Donc avec Éric Zemmour, on recrée l'indépendance énergétique de la France par le nucléaire. Mais pour répondre sur l'Ukraine de manière très claire, moi je pense que le débat est arrivé au bon endroit. C'est la question de la puissance de notre pays. Et c'est la question de la capacité de la France à incarner une puissance d'équilibre. Aujourd'hui, la France n'est plus cette puissance d'équilibre. Aujourd'hui, la France et Emmanuel Macron ne sont pas parvenus à jouer un rôle dans ce conflit. Ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'il faut le respect de la souveraineté et des frontières de l'Ukraine. Ce que dit Éric Zemmour, c'est que la guerre doit être évitée. Ce que dit également Éric Zemmour, c'est que la responsabilité de la situation actuelle incombe en premier lieu à la Russie. On est très clair là-dessus. En revanche, nous, on est parfaitement gênés de voir l'attitude des Occidentaux, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui ont méprisé les préoccupations sécuritaires légitimes de la Russie et qui n'ont jamais voulu s'inscrire avec la Russie dans un dialogue sérieux. La situation, on y arrive aujourd'hui du fait de la pression des Américains, de l'OTAN et de l'alignement de l'Union européenne sur ces positions-là. Nous devons donc retrouver le rôle d'équilibre de la France. J'entends parler de sanctions, mais les sanctions, elles ont été inefficaces. Les sanctions, elles renforceront Vladimir Poutine dans sa posture aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il est urgent de retrouver une puissance, il est urgent de renforcer notre armée. C'est Éric Zemmour qui propose un second porte-avions, qui propose de renforcer nos capacités militaires de manière très claire pour que la France puisse à nouveau être une grande puissance d'équilibre.
Cyril Bray.
Oui.
La France, puissance d'équilibre.
Tout à fait. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle est entendue aussi bien à Washington qu'à Moscou, et c'est pour cette raison que notre pays est nécessairement partie de la solution de la sécurité en Europe. Nous revenons à une époque de la géopolitique où le droit n'est plus que subordonné aux armes et où c'est la puissance brute dans toutes ses dimensions, cyber, sur les théâtres d'opération, qui prime sur toute autre considération de règlement des différends. Notre pays a conservé, développé, nourri toute une capacité de production technologique, de capacité d'intervention qu'elle a forgée dans toutes les interventions qu'elle a menées à travers le monde, qui la pose comme un pivot de la puissance européenne. Sans la France, l'Union européenne est un géant économique qui reste un nain politique.
Dernière question pour une réponse courte. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de guerre?
Ah oui, il est imminent les combats n'ont jamais cessé depuis 2014. Ils se sont intensifiés depuis le week-end. Oui, le risque est immense.
Mais uniquement en Ukraine ou élargi?
Si l'Ukraine est envahie, nécessairement les mécanismes de solidarité enrôleront d'autres pays dans ce conflit. Donc il est élargi.
Merci beaucoup Cyril Bray, prof à Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Notre Europe Jacques Delors, auteur du livre « Union européenne, Russie, les sanctions et après » et auteur d'un long dossier sur la Russie dans « L'éléphant, la revue de culture générale du mois ». Tout de suite, notre grand débat. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Manifestement, c'est les partisans d'Éric Zemmour qui se mobilisent. Pour voter sur Twitter, ça vote beaucoup.
Ou les Français qui pensent qu'Éric Zemmour pourra les protéger.
Puisqu'ils sont 61,4% à dire Éric Zemmour, 16,9% Valérie Pécresse, 0,3% Yannick Jadot, faut dire à vos copains...
J'ai une marge de progression dans l'émission.
Et un autre candidat, 21,3%, on se retrouve tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David.
Je serai le président de la paix et de la sécurité.
Nous rendrons la police à sa mission première, la protection des Françaises et des Français.
Aujourd'hui, il est temps de nettoyer les quartiers, traquer les caïds, les voyous, les criminels.
Je serai le président des gendarmes, des policiers, des forces de sécurité et de la tranquillité enfin retrouvée.
Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert.
La sécurité est toujours un enjeu lors de la présidentielle. Elle est d'ailleurs la troisième préoccupation des Français pour cette élection, selon le baromètre OpinionWay du mois dernier, du mois de janvier. Une insécurité qui ne se résume peut-être pas à un sentiment qui serait de l'ordre du fantasme, pour citer le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, si on en croit les différentes études d'opinion. Sur la sécurité, quel candidat, en qui avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Pour le moment, c'est toujours Éric Zemmour qui est en tête avec 60,9, Valérie Pécresse 17,4, Yannick Jadot 0,3 et un autre candidat 21,4. Qu'est-ce que vous propose Valérie Pécresse pour la sécurité, Guillaume Carayon?
D'abord dire que la violence est en train d'exploser dans notre pays. Il y a 800 agressions chaque jour. Ça témoigne de la faiblesse de l'autorité de l'État. On le voit à travers les policiers, les pompiers, tous ceux qui représentent l'État, tous ceux qui portent l'uniforme, qui sont constamment défiés. Il faut aujourd'hui d'abord investir massivement dans la justice. Avec Valérie Pécresse, on propose un grand plan hors sec pour la justice, 9 milliards d'euros pour les tribunaux qui sont délabrés, pour les prisons qui sont dans un piteux état, pour recruter des magistrats, pour recruter des greffiers. Il faut ensuite une justice qui soit plus sévère à l'égard des délinquants et des criminels. Je crois qu'il faut que la peur change de camp, que la peur elle soit plus du côté des voyous, mais qu'elle soit du côté des victimes, mais du côté des voyous. Et donc pour ça, il faudra abaisser la majorité pénale à 16 ans. Il faudra aussi que la justice soit plus rapide, donc construire des places de prison. Emmanuel Macron, il avait promis la création de 15 000 places de prison, il y en a à peine 2 000 qui ont été construites. Donc il faut absolument durcir les moyens de la justice, durcir la réponse pénale, faire en sorte que la peur change de camp et qu'enfin les délinquants et les criminels soient dissuadés de commettre un fait délictuel.
Éric Diaz. Antoine Diaz, pardon, pourquoi Éric?
Pas de souci. Éric, c'est le candidat, c'est le futur président de la République. Mais alors,
nous, j'ai pas fait exprès.
Quand on parle de sécurité, déjà, chez Éric Zemmour, on souhaite rendre un hommage appuyé à l'ensemble de nos forces de l'ordre, de nos forces de sécurité, qui font face, en fait, qui sont l'avant-garde de ce que notre pays est en train de devenir, et donc hommage appuyé à toutes nos forces de l'ordre. Ensuite, quand on parle de sécurité en France, on parle bien entendu de justice. On l'a évoqué tout à l'heure, avec Éric Zemmour, on mettra en place les peines planchers pour que les délinquants soient punis. Avec Éric Zemmour, on rétablira la perpétuité réelle. Je le disais tout à l'heure, la justice, elle doit protéger les victimes. Protéger les victimes, protéger les Français, c'est maintenir en prison, à vie, des gens qui sont dangereux pour la société. Ce n'est plus envisageable qu'ils sortent avec les remises de peine, etc. Avec Éric Zemmour, c'est la perpétuité réelle pour les criminels. Ensuite, nous parlions des victimes également, de toutes ces petites agressions du quotidien qui sont bien souvent pas poursuivies. Avec Éric Zemmour, nous poursuivrons toutes les violences physiques, même les plus petites, pour retrouver la sérénité au quotidien. Avec Éric Zemmour, on expulsera les délinquants étrangers. Un étranger, délinquant dans notre pays, n'a pas vocation à rester chez nous. Il repart. On libérera, comme ça, beaucoup de places de prison, également, pour pouvoir mettre d'autres criminels dans ces prisons. Ensuite, Éric Zemmour veut lutter efficacement contre la drogue. Aujourd'hui, la lutte contre la drogue manque de moyens, la lutte contre la drogue manque de sanctions. Éric Zemmour créera une force nationale anti-drogue. Éric Zemmour veut aussi mettre fin aux squats, l'occupation du domicile de certains Français sans que rien ne se passe. La justice met des années à trancher. Avec Éric Zemmour, nous expulserons les squatteurs en 72 heures. Éric Zemmour veut aussi renforcer le pouvoir des maires, qui sont en première ligne, bien souvent, face à la sécurité, avec leur police municipale, face aux occupations illégales de terrain. Éric Zemmour veut également supprimer les aides sociales aux délinquants, aux familles de délinquants, pour qu'il y ait une prise de conscience. Vous voyez, ce sont des mesures très concrètes, parce qu'Éric Zemmour veut que nous retrouvions la sérénité dans notre pays.
Je ne vais pas dire Yannick Lucas, mais Benjamin Lucas.
Plein de choses ont été dites. Moi, quand même, pas ne pas réagir. Moi, je ne crois pas que construire plus de places de prison règle en quoi que ce soit le problème. Je pense qu'il faut, sur la sécurité, une approche qui ne soit pas une approche idéologique. Il faut une approche très pragmatique. Les pays qui enferment le plus, comme les États-Unis notamment, sont aussi les pays qui ont le taux de récidive, le taux de délinquance le plus fort. Donc, il faut.
On est le deuxième pays d'Europe en termes d'agression et le 17e en termes de personnes emprisonnées.
Je vous ai laissé terminer. On ne peut pas avoir une logique qui soit celle-ci. Ensuite, poser une question intéressante qui est celle des drogues. Moi, je crois au contraire que légaliser le cannabis permettra de lutter contre un certain nombre de trafics, de mafias qui génèrent aujourd'hui de la violence dans beaucoup de nos quartiers. Oui, mais d'ailleurs, c'est une proposition qui est défendue par des anciens ministres de l'Intérieur. C'est une proposition qui est défendue par beaucoup de professionnels aussi de la sécurité.
C'est Castaner, on s'en passera. Pour le coup.
Castaner, pour moi, n'est pas un ministre de gauche, monsieur. Si je peux terminer, ce serait.
Castaner va peut-être apprécier vos propos.
Si je peux terminer, ce serait aimable, mais je vais vous prendre une mesure concrète. Personne n'en parlait ici. Il y a les violences sexistes et sexuelles. Y a une grande revendication du monde associatif, de toutes les organisations qui viennent en aide aux femmes victimes de violences, qui demandent, qui réclament à corps et à cri, ça devait être la grande cause de ce quinquennat, mais comme toutes les grandes causes de ce quinquennat, on ne l'a pas vraiment vu dans les actes, qui réclament 1 milliard pour lutter aujourd'hui contre ces violences. Nous répondrons favorablement à leurs demandes et nous mettrons l'ensemble des moyens de la puissance publique pour lutter efficacement contre les violences sexistes et sexuelles. Et je note que, par ailleurs, nous n'avons pas choisi comme candidat à la présidence de la République quelqu'un qui a été mis en cause par plusieurs femmes pour des agressions sexuelles présumées. Je crois qu'il y a aussi un devoir d'exemplarité en la matière quand on se veut irréprochable et quand on professe la tolérance zéro. C'est pas un sous-entendu du tout. Je fais référence à des articles de presse. Monsieur, ce sont pas des sous-entendus. Éric Zemmour a été mis en cause dans la presse,
la justice de notre pays,
pour des comportements qui vont relever d'agressions sexuelles.
Aucune procédure.
Vous parlez de violences sexuelles.
Guillaume Carillon.
Il a été révélé que 60% des agressions sexuelles qui sont commises dans les transports en commun franciliens en Île-de-France sont le fait de mineurs isolés, c'est-à-dire de mineurs étrangers. Et j'en viens à ma transition.
Je ne croyais pas avoir deux représentants du Front National aujourd'hui.
Non, mais le fait qu'il y ait un lien entre l'immigration et la délinquance de la criminalité, je crois qu'il a été fait par la quasi-totalité des Français. Quand il y a 23% de nos prisonniers dans notre pays qui sont des étrangers, je crois que c'est la meilleure preuve. Et la statistique que je viens de vous citer sur les agressions sexuelles dans les transports en commun franciliens, c'est une deuxième statistique qui le prouve.
Attendez, parce qu'on est d'accord, Valérie Pécresse est l'héritière de Nicolas Sarkozy, vous l'avez dit tout à l'heure.
Le lien entre l'immigration et la délinquance, vous le niez.
Qui a supprimé la police de proximité? Qui a réduit?
Mais ça tombe bien,
qui a fermé un certain nombre de commissariats? J'ai souvenir que dans ma région, c'est sous Nicolas Sarkozy qu'on fermait des commissariats ou qu'on fermait des gendarmeries. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que vous êtes le camp de l'ordre, de l'autorité et du soutien aux policières et aux policiers, et en même temps avoir le bilan que vous avez. Vous avez notamment supprimé la police de proximité. Donc de ce point de vue-là, les Françaises et les Français connaissent le bilan de lorsque vous étiez aux responsabilités. C'est pas se faire des peintures de guerre sur le torse et crier sécurité, sécurité, sécurité. C'est agir pour un vrai service public, pour un vrai service public de la sécurité.
Guillaume Carayon, et on ne se coupe pas la parole, et ensuite Antoine Hier.
Ça, on les connaît, c'est les éléments de langage de la gauche. Vous dites ça depuis 40 ans, ça vous a plongé dans une impuissance totale.
Et toutes vos lois sécuritaires, s'il vous plaît.
Et toutes vos lois ultra-sécuritaires, Benjamin Lucas,
rien du tout.
Benjamin Lucas, on ne se coupe pas la parole. Guillaume Carayon.
Il y a un rapport de la Cour des comptes qui a été dévoilé il y a quelques semaines et qui montre que la délinquance et la criminalité étaient en baisse sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Je vous dis pas que tout était bien sous le quinquennat Nicolas Sarkozy. Moi, j'étais à l'école primaire.
On enregistrait beaucoup moins.
S'il vous plaît.
La Cour des comptes, les caméras vidéo surveillance sont inefficaces. C'est Valérie Pécresse et Isabelle Bertrand qui en installent partout.
Benjamin Lucas, on ne se coupe pas, s'il vous plaît.
Bien sûr que les caméras de vidéo surveillance sont efficaces. Vous n'avez qu'à venir à Lavore et vous verrez que ça a permis de juguler la délinquance.
Mais j'y viens, j'ai ma famille.
Mais oui, mais vous venez pas souvent sur le terrain. Non, moi, ce que nous, on a des propositions très concrètes, c'est de dire qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance. Et comment on fait? Alors, on met en place des quotas.
La droite de Jacques Chirac nous dit qu'il y a un lien entre immigration et délinquance.
Mais il y a 23% des prisonniers qui sont des étrangers.
C'est ça la droite républicaine.
Mais évidemment.
Mais vous devriez avoir honte, vous leur servez la
soupe. Il y a 90% des Français qui le pensent.
Zemmour avec vous.
Vous
le remerciez.
Vous
le remerciez, vous faites tout le travail idéologique.
Y a-t-il un lien, ça vient d'être dit, entre immigration et insécurité?
Oui. Bien entendu, mais les chiffres sont là et tout le monde le voit.
Mensonge.
Voilà, la gauche. Mais encore, vous avez affirmé que c'est un mensonge. Et son masque devant les yeux,
non, pas de
qui par idéologie.
Et c'est à cause de votre discours qu'Éric Zemmour il est aussi haut.
Les choses. Et donc oui, on sent que la candidate DLR essaye de nous courir après jusqu'à évoquer le grand remplacement.
Non, elle est de droite assumée, elle le fait depuis le début de sa carrière.
Est-ce qu'elle n'a pas évoqué le grand remplacement dans son discours raté au Zénith? Pour essayer de draguer...
La droite assumée, j'ai dit qu'elle avait des valeurs et certaines
dites morales. Chacun son tour.
Alors, En l'occurrence, je dis juste une chose,
c'est que Valérie Pécresse, partout où elle est passée, elle a eu des résultats. Elle est présidente de la région Île-de-France, qui est la plus grande région d'Europe. Elle a mis en place une charte de la laïcité pour lutter contre le communautarisme. Elle a mis en place le bouclier de sécurité, et qui n'a même pas été voté par le Front National.
Immigration, insécurité. C'était notre ami Guillaume Carillon qui l'avait lancé.
Il y a une surreprésentation des étrangers dans nos prisons, il y a une surreprésentation des étrangers dans les condamnations faites en France, mais ça, tout le monde le sait. Moi, je veux revenir sur Valérie Pécresse, qui nous a fait, il y a quelques semaines, peut-être un mois maintenant, le coup du Karcher. On va ressortir le Karcher de la cave. Mais précisément, nous, les électeurs de droite, quand on entend le mot Karcher, on se rappelle des promesses non tenues, malheureusement. Et donc, vraiment, Valérie Pécresse, sur la sécurité,
quand
elle se met...
Quand Nicolas Sarkozy a parlé du Karcher ?
Je pense que je votais.
C'est toi, ils sont copains.
Moi, je votais.
Ouais, bah, moi, j'étais à l'école primaire. Moi, je me suis pas engagé honnêtement pour qu'on revienne sur les débats de 2007.
Moi, je te parle de tous ces électeurs.
Si on s'engage en politique, c'est pour faire changer les choses.
Bah, tu connais peut-être pas l'histoire récente de la politique à droite, mais tu as des électeurs qui en ont ras-le-bol d'être trahis. Et qui, avec Éric Zemmour,
bah, je suis bien d'accord.
Avec Éric Zemmour, ils savent que les choses seront faites. Valérie Pécresse, elle a été ministre, comme tous les autres.
Partout, elle a eu des résultats. Au budget, à l'enseignement supérieur, elle a eu des résultats.
Valérie Pécresse n'est pas particulièrement bien placée sur les questions de lutte contre l'immigration et sur la sécurité. Valérie Pécresse, elle signait une tribune avec Rokhaya Diallo.
Mais ça, c'est faux.
Une société multiculturelle.
Mais ça, c'est faux. Est-ce qu'il n'y a pas
le nom de Valérie Pécresse sous une tribune pour une société multiculturelle?
Mais c'est faux.
Et donc, le problème de Valérie Pécresse,
Est-ce qu'on peut être une
société qui est de fait multiculturelle?
Non, il n'y a pas de société multiculturelle.
S'il vous plaît, chacun son tour.
On a une seule culture française.
Je ne veux pas défendre Valérie Pécresse de façon...
Ensuite, le meeting au Zénith.
Valérie Pécresse qui évoque le grand remplacement et tous les LR ensuite qui disent « Ah non, on n'a pas le droit d'évoquer le grand remplacement. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, tu es devenu d'extrême droite ?» Mais non. Avec Éric Zemmour, alors, au moins c'est clair. On luttera contre le grand remplacement.
Très court parce qu'on doit faire une pause.
Mais non, mais ça encore une fois, c'est une fake news. Vous avez l'habitude avec Éric Zemmour. Mais en 2010, il y a une tribune qui est signée par des politiques, par des universitaires pour appeler à une meilleure insertion sociale dans la société. Rokhaya Diallo fait la proposition d'une république multiculturelle et Valérie Pécresse fait la promotion d'une meilleure insertion professionnelle. Pourquoi ? Parce qu'elle est ministre de l'enseignement supérieur à ce moment-là. Donc bon, là, vous confondez tout. Vous ne pouvez pas me dire que Valérie Pécresse,
moi,
aujourd'hui,
jamais mon nom à
c'est
côté
une communautariste.
De
qu'on ne me dise pas que Valérie Pécresse est une communautariste. Enfin, vous êtes déconnecté.
Patrick Caram, qui est très proche d'elle,
Mais ça encore, c'est particulièrement,
c'est particulièrement illustré dans le communautarisme. Et il y a un certain nombre d'autres maires de banlieues parisiennes proches de Valérie Pécresse qui malheureusement sont tombés dans le communautarisme.
Je noterais, Philippe, qu'on est passé quand même d'un débat sur les questions de sécurité, qui sont des sujets sérieux, à tout autre chose où on s'accuse du communautarisme et à savoir qui va aller flatter le plus les instincts racistes dans le pays que l'autre. Moi, j'ai très mal pour la République quand j'entends un représentant de la droite républicaine reprendre toute la rhétorique de l'extrême droite.
Les vraies voix, 18h42, ils font faire une pause parce qu'il faut vivre. Je tiens à vous le rappeler. En quel candidat avez-vous le plus candidat pour assurer la sécurité des Français? C'est toujours Éric Zemmour, 61,2 en tête, devant Valérie Pécresse, 16,7, Yannick Jadot, 0,4 et un autre candidat, 21,7. On se retrouve tout de suite.
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David.
Retour des vraies voix avec Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, Antoine Dierce, porte-parole d'Éric Zemmour et Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot. Je vous posais des questions pour des réponses courtes. On va commencer avec vous, Antoine Dierce. On a commencé les débats avec Benjamin Lucas et ensuite Guillaume Carayon. L'insécurité, c'est un sentiment qui serait de l'ordre du fantasme ou une réalité, je cite... Vous allez tous avoir la même question, le garde du Sceau, Éric Dupond-Moretti.
Il se définit lui-même comme ministre des prisonniers. Je crois qu'on a tout dit. Cet homme-là est encore tellement l'avocat des voyous que, dans sa fonction de ministre de la Justice, il oublie complètement la réalité. Il nie l'insécurité. Et vous voyez, là, on est sur l'espèce de « en même temps » macronien. Allez, on va mettre un ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui fait le petit sarco pour nous faire croire qu'on fait de la sécurité. Et pendant ce temps-là, on a le ministre des prisonniers, Dupond-Moretti. Voyez, le en même temps macronien, ça ne marche jamais. Et je veux le dire à tous ceux qui veulent la sécurité, ne votez ni pour Macron ni pour Pécresse. La sécurité, c'est Éric Zemmour.
Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase d'Éric Dupond-Moretti? C'est un sentiment qui serait de l'ordre du fantasme ou c'est une réalité, l'insécurité?
Mais comme pour... tous les phénomènes sociaux, il y a du sentiment et de la réalité. Je ne vais pas dire à quelqu'un qui s'est fait agresser qu'il a ou qu'elle a le sentiment de s'être fait agresser. Il y a des agressions, il y a de la délinquance. Toutes les sociétés génèrent de la violence, plus ou moins, et il faut évidemment la combattre. Donc moi, je n'ai jamais compris ce débat entre réalité ou sentiment. Il y a aussi, parfois, et c'était véhiculé...
C'est pas moi qui l'ai lancé, c'est Éric
Dupond-Moretti. Bien sûr, je ne me permettrai pas, Philippe, de vous accuser de quoi que ce soit. Et on le voit parfois, d'ailleurs, il y a, et comme on le voit d'ailleurs, certains endroits, puisque vous parlez des questions migratoires, on rejette le plus les étrangers, sont parfois les endroits, on le voit dans les scores de l'extrême droite, où il y a le moins d'étrangers qui vivent. Donc, on voit bien qu'il y a, et sur les questions de sécurité, c'est pareil, il y a des endroits où il y a moins d'insécurité, où on est plus sensible à ces questions. Tout ça est mêlé, et je crois que notre responsabilité, c'est d'avoir sur ces sujets un débat démocratique qui soit serein, responsable et avec des solutions pragmatiques, et pas d'agiter les peurs et les fantasmes pour espérer gagner les élections et arriver à un régime poutinien, puisque j'en parlais tout à l'heure, comme ça permet de reboucler.
Guillaume Carayon.
Sentiment ou fantasme ?
Éric Dupond-Moretti, qu'il aille le dire aux victimes de l'insécurité que c'est un sentiment, que c'est un fantasme. C'est surréaliste de dire ça. Il y a 800 agressions par jour. Et qu'on ne nous dise pas que ça a toujours été le cas dans notre pays, qu'il y a toujours eu une insécurité galopante. Non, c'est pas vrai. Il y a eu une augmentation des coups et blessures volontaires. Je crois que c'est la statistique qui résume le mieux l'augmentation de l'insécurité, de 33% depuis 2017. Donc oui, il y a une insécurité qui a explosé depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, je dirais même depuis l'arrivée au pouvoir de François Hollande en 2012. Il faut stopper le laxisme judiciaire, il faut stopper l'insécurité, donc tout faire pour se donner les moyens de stopper l'impunité et d'arrêter les voyous.
Il faut stopper le laxisme judiciaire, vous direz ça à vos amis, les Balkany, les Sarkozy, Fillon,
la justice,
etc.
Elle est la même pour tout le monde.
Ça me paraît important.
Alors, un point important, la police. Est-ce qu'il faut plus sanctionner, alors quand je dis la police, la gendarmerie, les douanes, est-ce qu'il faut sanctionner plus durement les agresseurs de policiers, gendarmes, douaniers, etc., policiers municipaux aussi, hein, qui font le travail, bref, des forces de l'ordre, Antoine Diers.
Bien sûr, mais surtout, il faut mieux protéger nos policiers par une mesure proposée par Éric Zemmour, la notion de défense excusable. Aujourd'hui, nos policiers hésitent parfois à se défendre, à faire usage de leurs armes face à des délinquants, parce qu'ils se disent que la légitime défense va être mise en cause. Il y aura un juge qui considérera que ce n'était pas de la légitime défense. Avec Éric Zemmour, nous aurons la défense excusable.
Ah,
la défense
peur,
excusable,
ça va tirer
qu'est-ce
vous,
que c'est ? Non, vraiment, non, ça ne va pas tirer partout.
Peur,
rassurez-vous, nos forces de l'ordre sont des gens bien entraînés,
c'est plus des candidats à la
extrêmement
c'est des
raisonnables.
Hein. Oh
non, non, mais caricaturez pas. Arrêtez la caricature.
Vous êtes là, moi, votre je vous propre dis, caricature, il n'y a pas besoin
pas.
De grossir le trait.
Non, mais moi je parle de la réalité. La différence entre vous et moi, c'est que je parle de la réalité. La notion de défense excusable, c'est un élargissement de la notion de légitime défense pour soutenir nos policiers qui pourront faire usage de leurs armes.
Est-ce qu'il faut sanctionner plus durement les personnes qui attaquent les forces de l'ordre?
Je vais vous répondre et puis je vais répondre en même temps à M. Dier, parce que c'est un débat. Il faut protéger nos policiers, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a plus d'une heure maintenant, qui sont victimes du burn-out, qui ont des conditions de travail insupportables. Moi, j'ai discuté avec des policiers qui avaient un matériel et des uniformes qu'ils devaient eux-mêmes entretenir, qui n'étaient pas renouvelés suffisamment. Enfin, on laisse, comme tous nos services publics, mais la police singulièrement, dans un état de précarité qui est inacceptable. Voilà, attention d'ailleurs à des mesures, par exemple, sur l'armement. On sait, et ça c'est très documenté, c'est très sérieux, que quand on réduit les suicides dans la police, qui est un vrai fléau, hein, qu'il faut prendre au sérieux, quand on encourage à laisser son arme de service au travail. Or là, il y a une proposition du gouvernement, si j'ai bien compris, qui vise à rendre le train gratuit pour les policiers s'ils ont leur arme de service. Donc il faut faire très attention avec les effets d'annonce et la communication. Mais je veux vous dire d'un mot là-dessus, attention au côté, on va armer tout le monde et on va flinguer à tout va. Je le dis de la même façon, il faut aussi, pour protéger nos policiers, aussi mieux réprimer les violences policières, les bavures, les dérapages. Et donc il faut l'indépendance de l'IGPN, qui est aussi une garantie que pour l'immense majorité des policiers qui font correctement leur travail, il n'y ait plus cette situation finalement de tension dans laquelle beaucoup de nos concitoyens n'ont plus confiance dans la police de leur pays. Et c'est dramatique et aucun républicain ne peut s'en satisfaire.
Guillaume Carayon.
Policiers, pompiers, gendarmes, oui. Tous ceux qui nous protègent. Nous, on propose avec Valérie Pécresse une peine de prison d'un an minimum pour tous ceux qui agressent les dépositaires de l'autorité publique. Donc les pompiers, les policiers et les gendarmes, c'est très clair.
Dernière question, il faut faire court, il ne nous reste même pas 3 minutes. Est-ce qu'il faut des peines automatiques pour les récidivistes, Antoine Diers?
Bien sûr, bien sûr.
Les peines planchers, comme on disait à l'époque.
C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Peine planchée, peine alourdie pour les récidivistes, nous devons retrouver une justice qui sanctionne et qui met hors d'état de nuire les délinquants. Parce que la justice, son rôle, c'est de protéger la société et donc de les mettre hors d'état de nuire.
Peine planchée, retour des peines planchées.
Moi, j'ai confiance dans les juges. Je crois à l'état de droit, au contradictoire, à la défense. Chacune et chacun doit pouvoir être défendu. Je ne crois pas à l'automaticité parce qu'il n'y a jamais une affaire, et d'ailleurs, les victimes vous le disent, hein, il n'y a jamais une affaire qui est semblable à une autre. Il n'y a jamais une situation humaine, un drame, un crime, un délit qui est semblable à un autre. Et donc, il faut faire confiance à la justice. Et moi, j'ai confiance dans les magistrats de ce pays, dans les policiers de ce pays, dans la justice de notre pays aujourd'hui pour faire passer le droit, rien que le droit et tout le droit. Je crois que c'est ça la mission de la justice aujourd'hui.
Plancher,
c'est
ce sera le droit.
Nos
peines planchées, ce sera voté, ce sera le droit.
Guillaume Carayon, faut-il des peines planchées contre les récidivistes ou les réitérants, parce qu'il y a les deux, il y a les deux versions.
Bien sûr. Moi, ce que me disent les policiers, c'est qu'ils ont le sentiment d'arrêter 15 fois le même délinquant, 15 fois le même voyou qui va toujours être relâché 2 heures après. Donc oui, peine planchée à l'encontre des récidivistes.
Je vais vous poser, alors il reste, j'avais pas pensé à cette question, est-ce qu'il faut supprimer l'ordonnance de 45 pour les mineurs? C'est simple, c'est oui ou non, Antoine Diers?
Je pense que oui.
Benjamin Lucas,
pardon.
Faut-il supprimer l'ordonnance de 45 pour les mineurs?
Non. C'est un acquis précieux de la République.
Est-ce qu'il faut supprimer l'ordonnance de 45 pour les mineurs?
Non, mais on abaisse la majorité pénale à 16 ans.
Merci beaucoup à tous les trois. Verdict sur Twitter. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Vous dites Éric Zemmour, 61,1. Valérie Pécresse, 16,6. Yannick Jadot, 0,4. Et un autre candidat, 21,9.
Je n'ai pas baissé, j'avais augmenté, je n'ai pas baissé.
Vous êtes resté
stable. En tout cas, soulignons la belle victoire d'Éric Zemmour, qui sur tous les sujets que nous avons évoqués est très
vous
crédible.
Avez des armées de trolls sur les réseaux sociaux.
Mais arrêtez de parler des gens comme ça.
Maintenant, on va parler d'un sujet quand même qui mérite qu'on en parle, c'est l'autisme. Philippe Rossi, soutenu par la région Occitanie, une start-up lance une nouvelle application pour l'autisme.
Eh oui, c'est un sujet très important, la start-up en question, c'est la start-up Originelle. Vous allez sur le site internet originelle.fr qui lance donc cette application disponible sur smartphone. L'objectif, rendre plus facile le quotidien des familles et de tous les acteurs de la prise en charge de l'autisme. Bonsoir Marine Isambert.
Bonsoir,
bienvenue sur Sud Radio, bonsoir à vous. Fondatrice donc de cette start-up Originelle en France, je rappelle que 700 000 personnes sont touchées par l'autisme, il y a 100 000 enfants, et ces dernières années, hein, vous l'avez entendu, il y a eu quelques plans différents, en tout cas quelques plans autisme annoncés par le gouvernement. Aujourd'hui, Marine Isambert, ces plans ne suffisent pas?
Alors, effectivement, il y a eu pas mal d'annonces gouvernementales qui ont mis en évidence le manque de place dans les structures, les difficultés d'inclusion scolaire, etc. Et du coup, par mon parcours d'éducatrice spécialisée dans l'autisme de plus de 10 ans, j'ai pu aussi constater le quotidien que subissaient les familles. Et c'est ce qui m'a poussée, effectivement, à créer cette société de services et cette application pour soulager le quotidien des familles et des acteurs.
Parce que c'est vrai que des familles qui ont des enfants, mais pas que autistes, c'est un vrai parcours du combattant dans tout ce qui est prise en charge de l'autisme. Il y a beaucoup de structures, mais qui sont limitées. Et puis, il y a des coûts aussi, ça coûte cher, hein, toutes ces structures, pour accompagner en général, mais surtout accompagner un autiste. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette application concrètement pour aider ces familles, Marine ?
Alors nous, on a décidé de s'orienter sur le bien-être, le mieux-être des familles qui avaient effectivement un enfant touché par l'autisme, en leur proposant de faciliter la gestion du quotidien de leur équipe pluridisciplinaire, dans le cas où effectivement elles ont fait le choix, ou bien puisqu'elles n'avaient pas de place dans les institutions, ou bien par volonté d'avoir une prise en charge de meilleure qualité, de faire appel à une équipe d'intervenants pour intervenir au domicile. Donc il peut y avoir une psychologue, une orthophoniste, une psychomotricienne, un éducateur. Et tout ça, c'est des lourdes charges dans le quotidien, c'est des tâches qui sont très chronophages. Et donc notre application, elle permet de centraliser sur un espace sécurisé toutes les données relatives à la prise en charge et de faciliter le lien de coordination de l'équipe pluridisciplinaire pour que tout le monde ait les mêmes données, les mêmes niveaux d'information et puisse avoir une réactivité qui est meilleure que ce qu'on peut trouver dans les institutions. Et donc de ne pas remettre sur les épaules des familles toutes ces tâches à gérer au quotidien.
Elle concerne vraiment toutes les familles, cette application. Tout le monde peut la télécharger et en bénéficier.
Pour le moment, elle va concerner surtout les familles qui ont fait ce fameux choix de prendre une équipe à leur domicile. C'est sûr qu'elle va un petit peu moins s'adapter aux institutions. C'est notre projet de pouvoir lui apporter de nouvelles fonctionnalités et qu'elle s'adapte à vraiment tous les lieux de prise en charge, donc aussi bien le milieu institutionnel, associatif qu'à domicile.
Bon, alors on profite, Marine Isambert, qu'on a aujourd'hui avec nous des porte-paroles de candidats, voilà, des représentants, Valérie Pécresse, Éric Zemmour ou encore Yannick Jadot, évidemment, sans entrer complètement dans ce sujet compliqué qu'est l'autisme et la prise en charge de l'autisme. Est-ce qu'il faut faire plus, tiens, Antoine Dierz?
On en est au quatrième ou cinquième à plan peu près, autisme, oui. Hallucinant. À chaque fois, il y a un nouveau plan et pourtant, rien ne se passe. Moi, vous savez, je viens du Nord. Les familles trouvent des institutions en Belgique parce qu'il n'y a rien en France. Et donc, je crois que oui, enfin, il y a urgence que les pouvoirs publics doivent proposer un accueil en institution, un accompagnement à l'école pour les familles qui restent aujourd'hui bien souvent seules avec leur enfant autiste.
Et mettre plus de moyens, donc, Benjamin Lucas, parce que c'est ça, en fait.
Il serait bon que des candidats à l'élection présidentielle ne disent pas qu'on a une obsession de l'inclusion et de l'égalité. Moi, j'assume, avec Yannick Jadot et les écologistes, nous assumons qu'il y a une obsession de l'inclusion, une obsession de l'égalité
dans le piège.
Pour tous les enfants.
Il y a des familles qui veulent des institutions pour tous les enfants. Il y a des familles qui veulent des institutions spécialisées. Il y en a pas.
Chacun son tour.
Un sujet comme ça, il y a une attaque inacceptable.
Il ne reste plus beaucoup de temps.
Et beaucoup d'admiration pour celles et ceux qui pallient, vous l'avez dit, aux carences, aux défaillances des pouvoirs publics.
En 30 secondes, Guillaume Carayon,
c'est un sujet
qui est l'autisme très sérieux.
C'est un sujet sérieux qu'il faut prendre sans démagogie. Nous, avec le groupe Les Républicains, on a fait une proposition de loi, c'est la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui a été rejetée par le pouvoir macroniste, qui a été rejetée par les députés de la République En Marche. C'est quand même très symbolique de l'importance qu'ils accordent aux handicapés dans notre pays.
Ouais. Bon, très bien, on a compris toutes vos ambitions. En tout cas, merci Marine Isambert, fondatrice de la start-up Originelle. Oui, Philippe.
Et Sophie Cluzel, qui s'occupe, qui est secrétaire d'État aux handicapés, sera sur Sud Radio demain à 19h20. On continue, merci beaucoup Philippe
Rossi.
On continue avec les vraies voix, qui vont avoir deux auditeurs qui veulent les interpeller. Laurent de Montpellier, qui est artisan, qui veut vous parler de ce que vous proposez, ce que proposent les candidats pour soutenir économiquement les PME. Et on aura Nathalie de Lesson, qui est prof d'anglais, qui a participé aux grèves, et elle veut parler des manques d'effectifs dans l'éducation nationale. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle, Philippe David.
Ils sont restés avec nous, Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, Antoine Diers, porte-parole d'Éric Zemmour, et Benjamin Lucas, porte-parole de Yannick Jadot. Ce n'est pas demain à 19h20 que Sophie Cluzel sera sur Sud Radio, elle sera sur Sud Radio dimanche de 16h30 à 17h avec Vanessa Pérez dans Le Numérique pour tous. Nos deux vraies voix du soir, on prend la direction du Grand Sud, la direction Montpellier. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous vos invités.
Alors bonsoir, vous êtes artisan et vous voudriez poser une question ou deux questions à nos trois vraies voix du jour, on vous écoute.
Voilà, alors j'avais deux questions. La première est pour les charges sociales qui ont été suspendues en 2020 suite à la crise Covid. D'accord, suspendus, et qui sont maintenant rééchelonnés, j'ai reçu l'échéancier de l'URSSAF, rééchelonnés sur les deux ans à venir, 2022-2023, tous les mois, c'est-à-dire ça repart pour un tour, il n'y a eu aucun dégrèvement, aucune facilité. Bon, ça c'est la première chose, est-ce que peut-être la CSG pourrait être un peu baissée, et pourquoi pas, parce que ça fait... On doit le payer, ça bien entendu, mais il y a eu des facilités pour certaines entreprises, mais là les artisans, je vois mon cas, c'est simplement un décalage de charges, donc il faut s'accrocher, premièrement. Et deuxièmement, la deuxième question serait au sujet des prix. Je prends l'exemple de l'augmentation en 2021 des prix du matériel électrique et du câble et du fil en particulier, qui ont augmenté...
Vous devez être électricien alors.
Oui, je suis électricien, bien sûr, excusez-moi. Donc, qui ont augmenté pour le câble et le fil électrique, qui ont augmenté de 44%. Et les offres de prix ne sont valables que pour 48 heures. On se doute bien que tous les 48 heures, on ne va pas aller acheter un câble qui est fabriqué dans les 48 heures précédentes. Donc, il y a quand même un stock en France. Donc, que proposez-vous à travers vos candidats pour un peu bloquer les prix sur quelques temps, quoi, sur un mois ou deux, qu'on puisse faire des devis acceptables.
Alors, on va faire réagir nos vraies voix. Guillaume Carayon, tiens, notamment sur les charges sociales qui sont dues, et également sur un contrôle des prix. Ça fait longtemps que ça a été aboli en France. C'était, je crois, sous François Mitterrand, donc vraiment, ça date.
Bonsoir monsieur, sur la première question, je crois qu'évidemment il faut alléger les charges sociales, non seulement alléger les charges sociales, mais aussi engager la révolution de la simplicité administrative. Aujourd'hui, il faut débureaucratiser. Ensuite, nous on propose la défiscalisation des heures supplémentaires, et ça s'applique aux PME dont vous parlez. Et puis il y a une autre proposition qu'on fait, c'est de créer un fonds d'investissement pour les PME qui sont en train de souffrir financièrement et qui ont besoin d'être soutenus par l'État. Pour répondre à votre deuxième question, nous on ne propose pas de bloquer les prix. En revanche, si les prix ont augmenté, il faut se demander pourquoi. Parce qu'on ne se base pas assez sur le nucléaire. Emmanuel Macron a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim, ce qui nous a obligés à relancer nos centrales à charbon, ce qui est une catastrophe écologique évidemment, ce qui nous a également obligés à importer l'électricité qui vient d'Allemagne, qui est également produite à partir de centrales à charbon. Le résultat, c'est l'augmentation des taxes sur les prix de l'électricité. Donc il faut absolument relancer notre filière nucléaire, qui est un atout essentiel pour notre pays, et ça nous permettra de faire baisser la TVA sur les taxes sur l'électricité de 20 à 5,5%.
Benjamin Lucas, sur les charges sociales, ouais, et bon. Ensuite sur le contrôle d'éventuellement des prix, parce qu'il dit des prix sont valables 48 heures aujourd'hui, ça fait quand même un peu court.
Non mais bon, d'abord je veux dire trois choses. D'abord je veux dire sur le nucléaire, s'il y a bien un exemple de gabegie financière, et c'est démontré, on a vu avec le PR de Flamanville, dont les coûts ont été multipliés je crois par 17. On voit bien que c'est de l'argent public, l'argent des Françaises et des Français qui est jeté par les fenêtres au nom d'une obsession idéologique née au millénaire dernier. Je pensais que nous,
c'est
qui étions d'une autre génération.
Alors, non, mais là, surtout, notre ami Laurent, il est
ensuite, je pense que le problème. Pardon. Ensuite, le problème principal, évidemment, c'est celui des carnets de commandes. Et voilà pourquoi nous nous proposons un grand investissement dans la transition écologique. Si on projette le pays dans une volonté d'investir pour transformer notre économie au service du climat et donc de l'emploi, alors les carnets de commandes se rempliront. Il faut que la puissance publique joue son rôle. Moi, je dis, faisons très attention. D'abord, ce n'est pas des charges sociales, c'est des cotisations sociales. Et ces cotisations, elles permettent de payer un certain nombre de prestations qui ont permis, dans la crise, que nous puissions tenir, que nos entreprises puissent tenir, puissent bénéficier d'un certain nombre d'argent public, et puis pour que on n'ait pas des situations de grande pauvreté, de détresse sociale.
Et sur le contrôle des prix, Lydie, les prix qui tiennent pas, qui tiennent 48 heures, c'est quand même fou. On rétablit le contrôle des prix.
Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on intervienne, qu'on laisse pas le marché tout puissant, et c'est la raison notamment pour laquelle. Moi, je défends ici mon candidat. Yannick Jadot se bat depuis des années au Parlement européen contre les amis de Mme Pécresse, notamment, sur les traités de libre-échange qui mettent notamment nos petites entreprises en concurrence déloyale avec des multinationales internationales qui ne respectent aucune norme sociale, aucune norme environnementale, et tout ça affaiblit notre économie. Donc, il faut lutter contre ces traités de libre-échange. C'est l'engagement de Yannick Jadot.
Les deux questions de Laurent, artisan électricien à Montpellier, notamment sur les charges sociales et sur les prix qui n'arrêtent pas d'augmenter. Je dis la 48 heures, ce qu'on appelle de l'inflation rapide.
Bonsoir Laurent. De manière très concrète et très directe, Éric Zemmour, lui, fait une proposition qui va parler à tous les patrons de PME. Vous le savez, aujourd'hui, l'impôt sur les sociétés est à 30% au-delà de 38 000 euros de chiffre
résultat.
D'affaires.
Non, de résultat.
De résultat, pardon. Éric Zemmour propose de baisser de maintenir ce taux à 15% jusqu'à 300 000 euros. C'est un vrai coup de pouce pour les PME. L'économie française est fondée sur ces PME. Nous devons les soutenir. De la même manière, bien souvent, on perd des PME qui sont rachetées par des fonds étrangers, etc., à cause des droits de succession et de donation dans le cadre d'une transmission familiale. Eh bien, Éric Zemmour supprimera les droits à payer pour les donations ou les transmissions dans le cadre familial.
Et sur le contrôle des prix, est-ce qu'il faut rétablir le contrôle des prix? C'était Mitterrand qui l'avait rétabli et qui l'a après supprimé.
Notamment, bon, on a parlé d'énergie. Je crois qu'Éric Zemmour est le plus ambitieux sur le renouvellement du programme nucléaire français. Éric Zemmour le dit, ce sera l'indépendance de la France et surtout, c'est la garantie d'une énergie bon marché. Et donc, Éric Zemmour, la relance du programme nucléaire français, on garantira à tous les Français et aux entreprises une énergie bon marché.
Merci Laurent de Montpellier. Là, on ne va pas avoir les mêmes préoccupations ni les mêmes latitudes. Direction l'Essonne. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
You teach Allô English. Vous êtes prof d'anglais, c'est ça?
Bonsoir à toute l'équipe de la radio.
Good evening. Et vous voulez parler, vous avez fait des grèves, vous voulez parler de votre condition et vous voulez poser des questions à nos vraies voix du jour. On vous écoute.
Absolument, j'en ai deux. La première question, quels sont les moyens que les candidats mettraient en œuvre pour rendre le métier plus attractif? Non seulement on n'attire plus les jeunes, mais en plus les certifiés s'en vont, puisque là j'ai à peu près 4-5 collègues qui ont demandé des ruptures conventionnelles et qui ont l'intention d'aller jusqu'au bout.
Ah oui.
Et pour ceux qui n'obtiendraient pas leur rupture conventionnelle, ils démissionnent, hein. C'est dire que les 2 mois de vacances n'attirent plus du tout. Hein.
Oui, elle nie la sécurité de l'emploi.
Voilà. Et la deuxième question, c'est un petit peu le corollaire de la première. Qu'est-ce qu'ont faire les candidats pour remettre de l'autorité au sein des établissements? L'autorité, j'entends le respect que l'on doit aux enseignants. Respect, autorité dont on a été dépossédé depuis quelques années. C'est un euphémisme. Hein.
Voilà. Alors, on va faire réagir. Benjamin Lucas. Tout d'abord, que faire pour rendre le métier plus attractif et éviter que les gens démissionnent?
D'abord, merci madame pour votre témoignage. Moi, je suis le produit d'une famille d'enseignants de l'éducation nationale, ça ne surprendra personne, d'instituteurs, de professeurs de lycée, etc. Et je constate le degré de souffrance aujourd'hui de beaucoup de professeurs face une situation compliquée, de souffrance à la fois, évidemment, elle est matérielle, elle est financière. Nous payons mal nos enseignants, et c'est peu de choses de le dire, nous payons de façon très insuffisante nos enseignants, on doit rattraper le retard, et ça on le propose avec Yannick Jadot, rattraper le retard aujourd'hui sur la moyenne de l'OCDE. C'est inadmissible et inacceptable la façon dont on paye les enseignantes et les enseignants dans ce pays, mais aussi en termes de considération. Et on l'a vu dans cette crise quand Jean-Michel Blanquer, depuis Ibiza, donnait des protocoles imposés par le haut, que les enseignants n'avaient pas le temps d'appréhender, que les personnels éducatifs dans leur globalité se voyaient imposés. Il y a besoin de remettre l'enseignant l'enseignante et l'enseignant au cœur de l'école, avec les élèves. Et donc moi, je dirais trois choses sur l'école. Parce que notre école, elle est malade de ces inégalités. Nous sommes l'école qui reproduit le plus dans les pays de l'OCDE les inégalités et donc l'injustice sociale qui en découle. Et ça impacte évidemment les enseignantes et les enseignants qui veulent bien faire, qui veulent transmettre, qui veulent permettre aux élèves de s'émanciper. Donc il y a une réponse sur les moyens. Il faut mettre le plus là où il y a le plus besoin. Nous sommes absurdité complète. Un système où on met 15% de moins que l'OCDE sur nos écoles primaires, là où se figent et se forgent les inégalités, et 15% de plus sur le lycée. Et je ne parle même pas des classes prépa qu'on abonde de beaucoup d'argent. Donc d'abord, la question des moyens, évidemment, notamment pour assurer la mixité
pour l'autorité
scolaire. Ensuite, il faut repenser aussi la pédagogie et le accompagner les enseignants aussi dans leur pratique d'enseignement. Moi, je ne fais pas partie de celles et ceux qui veulent imposer un récit national, etc. Je pense qu'il faut faire confiance aux enseignantes et aux enseignants, à leur façon d'enseigner. Puis enfin, il y a l'alliance éducative, l'école, et ça, il faut dire, et c'est ça aussi qui est au cœur du malaise aujourd'hui, l'école à elle seule ne peut pas tout. Et donc, il faut, autour de l'école, impliquer les associations d'éducation populaire, les fédérations d'éducation populaire, les collectivités locales. Il faut qu'on fasse corps, que la République fasse corps autour de son école, pour ne pas attendre d'elle qu'elle résolve seule tous les problèmes de la société.
Éric Diers, les deux questions de Nathalie de l'Antoine Diers, d'anglais. Antoine Diers, pardon, je ne sais pas
problème,
pourquoi. Hein.
Pas de problème.
Que mettre en œuvre pour rendre le métier plus attractif d'enseignant et pour rétablir l'autorité dans les établissements?
Alors, vous savez, la question de l'éducation pour Éric Zemmour, elle est fondamentale. Éric Zemmour, il dit, bien entendu, et c'est important, que nous devons rapidement revaloriser le traitement des enseignants. Il le dit aussi pour les policiers et pour les personnels du service public de la santé. Mais sur les enseignants, oui, nous devons revaloriser le traitement de ces personnels de l'État. Éric Zemmour, il dit aussi que si on devient enseignant, c'est bien souvent par amour de sa matière. C'est parce qu'on a envie de la transmettre, parce qu'on a envie de la présenter. Éric Zemmour dit « Arrêtons de donner un certain nombre de missions annexes aux enseignants, cours d'éducation à je sais pas quoi, etc. Revenons aux fondamentaux et redonnons
et
les moyens
que cette attention soit volontaire. »
Chacun son tour.
J'ai découvert la montagne grâce à des enseignants qui organisaient un voyage au ski. Je ne pouvais pas dire
chacun son tour.
Et donc, revenons aux fondamentaux. Les français, les maths, etc., pour que les élèves aient un niveau scolaire en sortant de l'école. Arrêtons
Madame
de fixer...
Madame enseigne l'anglais, ça ne lui parlera pas beaucoup ce que vous racontez.
Et l'anglais, bien entendu.
Et pour l'autorité.
On a fixé à l'école beaucoup trop d'autres missions qui ne sont pas les siennes. L'école, c'est l'instruction. Permettons à tous les petits français d'être bien instruits.
Et l'autorité.
Pour l'autorité.
Et ensuite, Guillaume Carayon.
De manière très claire, il faut soutenir les enseignants dans le rétablissement de l'autorité à l'école. Bien souvent, ils ne reçoivent pas de soutien de leur direction d'école. Et donc, il y a un travail immense à faire pour rétablir l'autorité de l'enseignant avec le soutien des directions.
Guillaume Carayon, vous allez le faire en anglais pour être agréable à Nathalie, qui est prof d'anglais. Premièrement, comment faire pour rendre le métier plus attractif? Et deuxièmement, pour rétablir l'autorité?
Non, mon anglais est trop mauvais, je ne pourrais pas. Bonsoir madame.
Là, au moins, on ne peut pas dire que vous faites des promesses de Gascon, qui êtes du sud-ouest.
Je crois, madame, que vos deux questions sont liées. Pour restaurer l'attractivité du métier, d'abord, il faut revaloriser les salaires, mais il faut aussi que les enseignants soient respectés. Il faut restaurer l'autorité des enseignants. Je crois que depuis... un certain nombre d'années, on est dans une logique pédagogiste dans laquelle on met dans un rapport d'égal à égal l'enseignant et l'élève, qui est avant tout quelqu'un qui est là pour apprendre. C'est un apprenant. Et donc, il faut restaurer pour moi un lien de verticalité, parce que l'enseignant, il est là, il est à cette place-là parce qu'il détient le savoir.
Il faut éviter les classes surchargées aussi. Et vous avez quand même supprimé un nombre de postes dans l'éducation nationale qu'on paye encore aujourd'hui.
L'enseignant, il est là parce qu'il transmet le savoir, et je crois qu'il faut retransmettre les savoirs fondamentaux, évidemment augmenter le nombre d'heures de mathématiques et de français. Je crois que la nation éducative que promet Valérie Pécresse, c'est la seule perspective en fait d'une élévation sociale. Aujourd'hui, il faut 6 générations à un enfant des classes populaires pour accéder à la classe moyenne. Il faut aujourd'hui engager une révolution éducative, et ça passera par un accroissement des moyens de l'État.
Et sur l'autorité?
Sur l'autorité, je l'ai dit, évidemment, il faut aujourd'hui mieux sanctionner tout de suite les élèves qui s'en prennent à des professeurs. C'est inadmissible, il faut restaurer un lien de verticalité.
Et merci. Pour ça, il ne faut pas concentrer les problèmes dans les mêmes établissements, et donc la question de la mixité scolaire à laquelle vous n'avez jamais voulu toucher est un vrai sujet aujourd'hui. On ne peut pas faire des ghettos de riches et des ghettos de pauvres dans l'école.
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse. Merci Benjamin Lucas, porte-parole de Lanny Jadot. Merci beaucoup Antoine Diers. Vous, je ne vous ai pas appelé Valérie Carayon. Moi, je ne suis pas trompé. Mais ce n'était pas compliqué.
Porte-parole. Président de la République.
Oui, il y avait Valérie, président de la République, s'appelait Giscard d'Estaing, absolument.
Un centriste
entre
comme
74 et 81. Et merci à Laurent de Montpellier, à Nathalie de l'Essonne. Philippe Rossi, désormais, c'est avec vous.
Et, oui.
Et on va parler. Emploi.
Emploi, comme chaque mardi, les vraies voix de l'emploi avec Jérôme Lavernil, directeur du réseau national Mission Emploi. On va revenir sur la crise sanitaire du Covid, mais en matière d'emploi, est-ce qu'on est en fin de sortie de cette crise? Le chômage baisse, certes, mais est-ce qu'il ne faut pas prévoir des faillites d'entreprises très fragilisées et endettées par les PGE, par exemple, qu'elles ont du mal à rembourser? Puis il y a des entreprises aussi, à cause de la crise sanitaire, qui ont dû s'adapter. On va parler de tout ça et tenter de répondre à notre question. Sommes-nous enfin sortis de la crise sanitaire en matière d'emploi avec vous au 0826 300 300 pour réagir, témoigner, rester avec nous, les vraies voies de l'emploi dans quelques minutes. Mais dans l'immédiat, eh bien, on vous donne, comme chaque soir, quelques petits conseils en matière de gestion de patrimoine. C'est avec Stéphane Moller. Écoutez bien, voici tout de suite Conseil de famille.